Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présents pour le débat initié par le mouvement HF pour l'égalité femmes-hommes dans les arts et la culture, en partenariat avec le festival. Art et parité, mauvais genre ou genre nouveau. Nous remercions Hortense Archambault, ainsi que sa collaboratrice Véronique Matignon et l'ISTS, Institut supérieur des techniques du spectacle. C'est notre quatrième année de présence sur le Festival d'Avignon. Après une journée à l'invite du Festival OFF le 18 juillet sur la thématique des saisons égalité, du constat des inégalités au passage à l'acte, et la signature sur la péniche Rhône-Alpes par le président de région du manifeste que nous vous invitons à consulter, qui doit être par là, et à signer à la fois sur papier et en ligne. Nous nous retrouvons aujourd'hui sur la question essentielle de la place des femmes dans l'art et la culture, avec un plateau dont nous sommes absolument ravis. Un débat qui va être modéré par Joëlle Gaillot, journaliste et productrice à France Culture. Et nous sommes ravis d'accueillir Anne Bizan, metteuse en scène, Éric Fassin, sociologue, Geneviève Fraisse, philosophe, Myriam Marzouki, metteuse en scène et philosophe, Jean-François Parier, comédien et homme de théâtre, Nicole Pau, inspectrice générale des affaires culturelles en charge de l'égalité hommes-femmes au ministère de la Culture et de la Communication. Je suis moi-même représentante du mouvement HF, ainsi que Géraldine Bénichou, qui fait partie de HF Rhône-Alpes. Le mouvement HF lutte pour l'égalité femmes-hommes dans l'art et la culture. Donc, il s'est constitué en fédération interrégionale en 2011 et il regroupe à ce jour 8 collectifs et associations qui représentent à peu près 1 000 000 d'adhérents et d'adhérentes qui sont à la fois des personnes physiques mais aussi des structures et des théâtres sur tout le territoire français. Et ce mouvement est né à la suite des rapports commandés par le ministère de la Culture en 2006 et en 2009 qu'on appelle les rapports Rennes-Pratt. Qui a fait l'effet d'une bombe dans les milieux du spectacle et de la culture. L'association met en œuvre des actions qui articulent la sensibilisation des acteurs de la sphère culturelle, des tutelles, des organismes professionnels, des syndicats. Nous sommes une force de veille, d'éveil, nous espérons, de propositions, d'alerte, de sensibilisation pour faire connaître largement et désenclaver les problématiques de l'égalité dans les domaines des arts et de la culture. Et en particulier dans le spectacle vivant, dont nous sommes plutôt largement issus. Pour que jamais plus ne semble normale une saison théâtrale telle que celle qui va être proposée à l'Odéon l'année prochaine, à savoir un ensemble de 14 spectacles uniquement écrits et mis en scène par des hommes, pour que jamais plus ne semble indifférente la sélection du Festival de Cannes cette année, à savoir 60 films d'hommes et pas une seule réalisatrice, pour que ne se répète pas pendant les 66 prochaines années de vie du Festival d'Avignon la présence d'une seule femme metteuse en scène dans la cour d'honneur, nous sommes ravis de poser la question ici avec vous, art et parité, mauvais genre ou genre nouveau. Un titre un peu provocateur qui allie ici deux notions souvent mises en contradiction, à savoir art et parité. Nous allons confronter ce qui est habituellement mauvais genre, ce qui peut paraître vulgaire, à savoir la liberté de programmation contre la question de la parité. Et genre nouveau, pourquoi ? Parce qu'il nous semble que réunir art et parité permettrait un changement, un renouveau dans la façon de penser l'égalité femmes et hommes dans l'art et la culture. Je vous propose d'écouter un objet sonore qui a été réalisé par le mouvement HF avant d'entamer notre débat. Merci beaucoup.
Alors, qu'allons-nous voir et entendre quand nous allons assister à un spectacle dans le secteur subventionné ? 97% des compositeurs dont on entend la musique dans ces établissements sont des hommes, soit 3% de femmes.
94% des orchestres programmés dans ces établissements sont dirigés par des hommes,
soit 6% de femmes. Les femmes atteignent un meilleur pourcentage au son, 12%.
Magnifique.
Résolution du Parlement européen du 10 mars 2009 sur l'égalité de traitement et d'accès entre les hommes et les femmes dans les arts du spectacle.
Et la création lumière, elles sont 16%.
85% des textes que nous entendons quand nous allons au théâtre ont été écrits par des hommes.
78% des spectacles que nous voyons quand nous allons au théâtre ont été mis en scène par des hommes.
Le Parlement européen, vu la directive 2002/73/CE du Parlement européen,
vu la directive 97/80/CE modifiant la directive du 15 décembre 1997 relative à la charge de la preuve dans les cas de discrimination fondée sur le sexe,
l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle et les conditions de travail,
considérant que les inégalités dans les possibilités d'emploi et les chances des femmes et des hommes sont fortement présentes et persistantes dans les arts du spectacle,
considérant que les hommes et les femmes n'exercent pas dans les mêmes proportions les différents métiers des arts du spectacle, et qu'à cette première forme d'inégalité s'ajoute la disparité des conditions de travail et d'emploi et celle des revenus,
le Parlement européen, donc, reconnaît la nécessité d'engager une démarche spécifique à ce secteur d'activité pour expliquer les mécanismes et les comportements qui produisent ces inégalités.
Souligne l'importance de garantir, chaque fois que cela est possible, l'anonymat des candidatures et insiste sur la nécessité de maintenir l'usage de l'audition derrière un paravent pour le recrutement des musiciens d'orchestre.
Grâce à quoi des femmes ont pu intégrer ces ensembles.
Souligne que la discrimination à l'égard des femmes pénalise le développement du secteur culturel en le privant de talents et de compétences.
Souligne l'impact que le mode d'organisation inégalitaire de ce secteur peut avoir sur l'ensemble de la société.
Invite les acteurs du domaine culturel à améliorer la présence des créatrices et de leurs œuvres dans les programmations, les collections, les éditions ou les consultations.
78% des spectacles que nous voyons quand nous allons au théâtre, c'est juste un scandale, quoi, ont été mis en scène par des hommes.
La scénographie a été réalisée par un homme dans 78% des cas également. Les femmes assurent 8,8% de la direction des théâtres en France.
Alors 57% des spectacles ont été chorégraphiés par un homme. Voilà, c'est la situation de l'art et de la culture dans notre pays, c'est formidable. C'est formidable, c'est du vol, c'est même plus un scandale, c'est du vol. C'est du vol patenté et on ne peut pas continuer à accepter cette situation. C'est ignoble et c'est complètement indigne d'une grande démocratie.
Avec les voix de Anne Alvaro, Cécile Brune, Catherine Ferrand, Sabine Audepin, Agnès Sourdillon, Colline Serrault.
Des grandes actrices. Hein. Merci à vous d'être aussi nombreux avec nous ici au Cloître Saint-Louis. Je constate que dans la salle, évidemment, il y a plus de femmes que d'hommes et au plateau aussi. Malheureusement, je suis très contente de modérer ce débat. C'est May qui est venue me demander de participer à ça. Et c'est vrai qu'en tant que journaliste à France Culture, lorsque je lance des invitations pour participer aux émissions semaine après semaine, le plus souvent ces invitations sont faites aux hommes qu'aux femmes, parce qu'effectivement, en l'occurrence, il y a souvent plus de mises en scène signées par des hommes que par des femmes, ou de textes écrits par des hommes que par des femmes. En tout cas, s'il y a des femmes, elles n'apparaissent pas ou elles apparaissent moins, ce que je trouve totalement anormal et assez scandaleux. Donc je suis particulièrement fière d'être là, ici, pour organiser la parole pendant une heure et demie. Après, on ouvrira les micros à vous, à la salle, au public. Je me suis aperçue, en préparant cette conversation avec toutes ces personnes qui sont ici autour des micros, que chaque mot compte dans les termes qu'on pose pour aborder ce problème de la carence des femmes dans le spectacle vivant. Tous les mots comptent, et sans doute faut-il commencer par une première redéfinition, ou en tout cas une première approche de ce mot qui fait partie de l'intitulé du débat, art et parité, mauvais genre ou genre nouveau. Parité, est-ce que ce mot est le bon mot? Est-ce qu'il faut parler d'égalité? Qu'en est-il de la mixité? Et je voudrais tout de suite que Geneviève, tu t'exprimes sur ce mot de parité qui te pose, je crois, des problèmes, en tout cas qui pour toi n'est pas la totalité.
Oui, je crois que le mot de parité a tendance à être à extrapoler ou à être employé à la place du mot d'égalité. Alors il faut dire d'entrée de jeu que le mot de parité n'est pas un principe. Le seul principe qui vaille est celui d'égalité. Une fois qu'on a dit ça, ça permet de faire un peu le ménage. Alors ça m'amuse, et je vais revenir à cette définition de parité, ça m'amuse de reprendre la brochure de la saison 12-13 où il y a marqué « Où sont les femmes ?» car une fois n'est pas coutume, je vais faire le lien entre le politique et l'artistique à un niveau personnel, car j'ai eu quelques fonctions politiques, j'ai été déléguée interministérielle aux droits des femmes en 97-98, et j'avais lancé pour le 8 mars 98 un slogan, et ce slogan c'était précisément « Où sont les femmes ?». C'est comme ça que j'ai voulu définir le 8 mars 98, c'était pour l'espace du politique, l'espace de la politique de cette époque-là, fin du XXe siècle. Je remarque donc que 14 ans plus tard, c'est pour qualifier l'espace de l'artistique qu'on va utiliser ce slogan « Où sont les femmes ?». Donc c'est cela, la parité, c'est un outil pour se poser la question qui est « Où sont les femmes ?». Donc c'est un outil pour lire. Vous avez entendu le mot « outil ». C'est un outil de l'égalité, la parité. C'est un outil pour lire, d'abord, c'est-à-dire on regarde où elles sont, vous ouvrez votre télévision, pas d'experts femmes. Vous regardez une tribune, pas d'experts femmes. Vous ouvrez le journal, dans les conférences invitées, pas d'experts femmes. On va lire. Deuxième facette de cet instrument, eh bien, on va fabriquer des outils pour produire du partage, c'est-à-dire de la mixité, voilà le mot qui a été aussi utilisé. La mixité non plus n'est pas un principe. Ça, il faudrait en discuter aussi. Il n'y a en démocratie que deux principes, c'est l'égalité et la liberté. Il faut être clair quand on veut définir les termes. Voilà. Après, donc, la parité est bien un outil pour lire l'absence, l'inégalité, et pour produire, ça peut être un instrument donc, de l'égalité. Voilà, je crois, ce qu'il faut dire clairement. Que la parité puisse être après utilisée pour dire l'égalité, ça sera un mensonge. Quand l'INSEE dit la parité en chiffres sur ses brochures, l'INSEE a juste peur de marquer le mot « égalité » sur ses brochures. C'est tout. Mais c'est un mensonge. C'est un mensonge d'une institution importante qui s'appelle l'INSEE. La parité en chiffres, ça ne veut rien dire. Voilà, c'est juste cela qu'il faut comprendre quand on utilise le mot « égalité ». Permettez-moi de le rappeler pour qu'on discute proprement des choses. Mais le mot parité est un mot important. Ce n'est pas parce que c'est un outil que ce n'est pas un mot important.
Est-ce que ce mot parité fait réagir d'autres personnes ici au micro? Éric Fassin, Anne Bisson, Mebouada, Éric Fassin.
D'abord, merci pour l'invitation. Juste un mot sur le fait que je suis tout à fait d'accord avec Geneviève Fraisse sur le fait que ça n'est pas un principe, mais il se trouve, et elle sera, j'imagine, d'accord, que c'est pris dans une histoire, et c'est dans une histoire qui a permis de soulever des tas de questions qui touchent à l'égalité. Pour ma part, je le rappelais tout à l'heure dans une discussion avant de commencer ce débat, j'ai trouvé qu'il y avait une extrême et inhabituelle lucidité dans les propos d'un philosophe français, Alain Finkielkraut, lorsque, à la fin des années 1990, au moment des débats sur la parité, il mettait en garde en disant, avec deux formules qui montraient sa culture classique, d'une part, que la parité pouvait se révéler une boîte de Pandore, c'est-à-dire qu'on croyait qu'on ne parlait que de la politique, mais en réalité, on allait bientôt parler d'autres choses, et par exemple, du domaine économique ou bien du domaine culturel. Et d'autre part, il redoutait, à nouveau à juste titre, même si pour ma part je m'en félicite, que la parité soit le cheval de Troie, disait-il, du multiculturalisme. Autrement dit, qu'il ne s'agisse pas seulement des femmes, mais qu'à partir du moment où on posait la question de l'égalité, eh bien, on n'allait pas seulement parler d'égalité entre les hommes et les femmes. Donc sur ces deux aspects, à la fois la boîte de Pandore et le cheval de Troie, il me semble qu'Alain Finkielkraut avait raison d'avoir peur, et il faut s'en féliciter, puisque je crois que depuis lors, poser ces questions d'égalité, non seulement dans le monde de la politique, et par exemple dans le monde de l'art, mais non seulement à propos des hommes et des femmes, mais à propos de l'ensemble des populations qui sont exclues d'une logique pourtant démocratique, il me semble que c'est cela que la parité a facilité historiquement.
Nicole Pau, vous êtes ici l'émanation du politique. Ce mot de parité, Geneviève Fraisse dit que c'est un outil. Est-ce que pour vous, au niveau où vous êtes, cet outil est efficace?
Alors oui, effectivement, moi c'est ça, ça marche hein.
J'ai l'impression qu'on entend Nicole ou pas?
Vous m'entendez?
Oui, c'est bon.
C'est bon. Donc je pense que la distinction qui vient d'être établie par Geneviève Fraisse est effectivement extrêmement intéressante. Le but, c'est l'égalité, c'est pas la parité. Ceci dit, l'égalité, on en est très loin. Les chiffres qui ont été évoqués dans le message audio qui nous a été donné en début de cette table ronde sont éloquents. On est très loin de l'égalité. Donc la parité est effectivement, pour moi, le moyen d'aboutir à l'égalité entre les hommes et les femmes. Alors, je voudrais juste ajouter deux choses. Quand on parle de parité, en général, immédiatement derrière, on parle de quotas. Donc la question qui est posée, alors pardon d'anticiper, la question qui est posée, c'est de savoir si, lorsqu'on parle de parité, donc dans le domaine de l'art et de la culture, comme dans les autres domaines, mais restons sur ce champ-là, il faut ou non évoquer parler de quotas et de mise en place de quotas. Je pense que, pour rebondir un peu sur ce que disait Geneviève Fraisse, les quotas, c'est pas du tout un but en soi. Dans un monde idéal, il ne devrait absolument pas y avoir de quotas. C'est chacun selon, effectivement, son talent, sa capacité à faire. Mais comme nous sommes très loin d'un monde idéal, je pense personnellement que les quotas sont, et j'ai envie de dire malheureusement, mais sont une nécessité absolue. Bon. Et par ailleurs, je voudrais juste ajouter un deuxième point par rapport à l'intervention qui vient d'être faite. Je pense que la question des femmes doit être distinguée très clairement de la question de la diversité. Et donc, quand on parle de parité, on parle toujours de parité homme-femme. On ne parle pas de parité pour des populations minoritaires. Et je crois qu'il faut être très vigilant sur cette distinction. La diversité, le respect de la diversité, c'est bien évidemment tout à fait essentiel, mais la question de l'égalité entre les hommes et les femmes n'est absolument pas soluble dans la question de la diversité. Et pour ma part, je pense qu'il faut être extrêmement vigilant à cette distinction. Donc quand on parle de parité, on parle de parité homme-femme. Voilà.
Quelle est la politique de HF, justement, en l'occurrence, mais Géraldine, vis-à-vis des quotas, puisqu'on y arrive tout de suite, Nicole parle de la nécessité absolue du quota comme une sorte de passage obligé, finalement, si j'entends bien, pour arriver à obtenir ce que vous souhaitez obtenir. Quelle est votre politique en la matière, vous, à HF ?
Mais je pense qu'on peut...
Votre position.
Oui, je pense qu'on peut répondre en deux temps. Je vais répondre pour une petite partie et je passerai la parole à Géraldine qui est plus sur... au fait des mesures concrètes qu'on a commencé à mettre en œuvre. Je dirais que, d'une part, effectivement, la parité existe dans la population puisque nous sommes à 51% des femmes, donc nous sommes 1 sur 2. Bon, il se trouve que nous sommes à parité au réel. Et qu'il se trouve que, à l'heure actuelle, au sortir des écoles d'art, nous sommes plus nombreuses dans les domaines des arts que les garçons. Les jeunes filles font énormément d'études d'art, énormément de... Même, on va dire qu'à l'entrée au Conservatoire national, on est obligé d'inverser les quotas puisqu'il y a plus de candidats de filles que de candidats garçons et qu'au résultat, ils sont à 50-50. Donc, on a fait un quota à parité pour arriver à un 50-50 à l'inverse. Donc, à partir de là, ce qu'on peut dire, c'est qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il y ait un phénomène d'évaporation tel qu'on en arrive à ces chiffres scandaleux qui sont que 85% des textes, 98%, etc. Donc, mais je dirais qu'il ne faut pas avoir peur de la parité. Il faudra qu'on fasse un objet sonore avec les intitulés qu'on a travaillés pour faire ce débat où certains disaient qu'il faut dire égalité, équité, parité, qu'est-ce qu'on va dire ? Il y a une crainte extraordinairement comique sur ces termes-là. Et je pense qu'effectivement, il ne faut pas en avoir peur. Et je pense qu'effectivement, même si ça a quelque chose à voir avec les discriminations qui peuvent sur d'autres formes de population, la discrimination concernant le sexe est autre, puisqu'il y a une moitié de population femme et moitié de population homme. Quant aux mesures concrètes, on a des petits débuts de réponse sur la parité. Et c'est intéressant, si tu peux en parler, Géraldine.
En tout cas, sur la parité comme outil pour avancer, c'est vrai que je crois que la position de HF est une question qu'on renvoie aux politiques et aux politiques culturelles. C'est-à-dire comment aujourd'hui la question de l'égalité homme-femme peut s'inscrire au cœur des politiques culturelles. Donc, on est force de proposition, de dialogue sur comment les textes cadres, les cahiers des charges des théâtres aujourd'hui doivent inscrire l'égalité dans leur mission de service public aussi. Enfin, c'est vrai que la région Rhône-Alpes, qui est une région qui s'est engagée, donc une collectivité qui s'est engagée sur ces politiques-là, a inscrit dans tous les appels à projets de spectacles vivants une répartition de subventions autant à des hommes qu'à des femmes. Donc ça, c'est des mesures qui sont très concrètes. Et voilà, donc c'est aussi une question qu'on renvoie aux politiques culturelles. Quels outils peut-on aujourd'hui mettre en place et inscrire au-delà des volontés individuelles, des volontés des programmateurs qui sont aussi, enfin, que nous on sollicite, pour une attention à l'intérieur des programmations, il faut poser ça de manière très forte dans le cadre des politiques culturelles.
Mais quelqu'un comme Laurence Equilbé, par exemple, grâce à qui on a eu un rapport sur ce qui se passe dans le domaine musical, qui est totalement atterrant, puisque c'est encore pire que dans le domaine du spectacle vivant, sur ce qui concerne la place des femmes, a l'air de ne pas être, elle, pour l'instauration de quotas. Elle parle de plutôt l'établissement d'une charte pour la parité. Quelle serait la différence et quels seraient les avantages à plutôt écrire une charte pour la parité plutôt qu'établir des quotas ?
Moi, je dirais que la différence, c'est que cette question doit se travailler, en fait. C'est-à-dire que nous, nous sommes une force de proposition et d'éveil. Il faut absolument que les syndicats s'emparent de la question, le ministère, les collectivités territoriales, les collectivités locales, et qu'ils comprennent comment, dans un système tel que le nôtre en France de rapport avec les arts, nous pourrions faire des choses cohérentes qui permettent une égalité. Et effectivement, si c'est le désir du prince de faire des quotas, ce sera inapproprié, en fait. On est dans cette problématique-là. Les rapports de Laurence Equilbé, il faut savoir que ça a été financé par une personne seule. C'est-à-dire que c'est le fait que Laurence Equilbé soit chef d'orchestre et un coup de sang et de chauffe à voir que les chiffres n'étaient pas réactualisés. Et nous demandons au ministère de la Culture de réactualiser les chiffres, puisque nous les avons depuis 2009. Nous sommes en 2012. Et c'est grâce à Laurence Equilbé que nous avons les nouveaux chiffres. Il faut que ces chiffres rentrent absolument dans une habitude systématique et que la question soit réfléchie et que chaque collectivité, chaque organe décisionnaire puisse s'emparer de cette question-là en réflexion.
Nicole Pau, est-ce que vous avez, est-ce que vous êtes autorisée à parler au nom de la ministre de la Culture Aurélie Filippetti, qui, on le sait, est visiblement assez attentive à ces questions-là, qui a l'air de surveiller très attentivement ce qu'il en est des nominations à la tête des centres dramatiques nationaux, notamment. Et est-ce qu'il y a une volonté qui émanerait du ministère de la Culture, justement, d'infléchir un peu les prises de décision dans le sens de la nomination des femmes ou pas ?
Alors, je voudrais évidemment vous confirmer l'engagement total d'Aurélie Filippetti, donc ministre de la Culture et de la Communication, sur ces questions et sa volonté tout à fait claire de faire évoluer les choses. Bon. Après, le problème, c'est comment les faire évoluer. Ce n'est pas un sujet qui appelle une réponse extrêmement simple. Je voudrais redire sur la question des quotas, parce que peut-être que je n'ai pas été claire, ce n'est pas un objectif. Les quotas, c'est un moyen, et on peut finalement réfléchir à une politique de quotas, soit en l'imposant, en les imposant par la voie législative, ce qui a été fait d'ailleurs récemment, ou par la voie contractuelle. Donc ce n'est pas non plus forcément une coercition à ce point-là. Ça peut se discuter et s'imposer, comme il a été dit tout à l'heure, par la voie des cahiers des charges. Bon. Donc là, on est dans un dispositif où on a, en ce qui concerne la fonction publique, une loi qui a été votée il y a quelques mois sous l'ancien gouvernement, qui est la loi Sauvadet, qui impose un quota de femmes dans les nominations des postes de direction générale de la fonction publique de 40%. Alors, ce n'est pas 40% de femmes, c'est 40% d'un des deux sexes. Mais enfin, vous aurez compris que dans quel sens vont les choses. Bon. Par ailleurs, 40% de nominations de personnalités qualifiées dans les conseils d'administration de tous les établissements publics. Ce qui est, mutatis mutandis, la reprise de la loi Copé-Zimmermann qui date de 2010, si ma mémoire est bonne, et qui s'appliquait en fait aux entreprises du secteur privé et uniquement aux entreprises du secteur privé, ce qui avait suscité quand même quelques interrogations de la part d'un certain nombre de députés. Donc il y a eu un rapport fait par Madame Guégot qui a dit que tout ça était très bien, mais que le secteur public pouvait peut-être s'imposer également la même chose. Donc en ce qui concerne le ministère de la Culture, pour y revenir, bien évidemment, il applique cette loi, il va l'appliquer. Il ne s'interdit pas d'aller au-delà, puisque je viens de vous dire que c'était un quota de 40%. Mais au-delà de ça, la réflexion qui est en cours au sein du ministère de la Culture, donc sous l'égide d'Aurélie Filippetti, c'est de mettre en place réellement un dispositif, disons à plusieurs volets, puisque en fait, le but c'est quoi ? C'est déjà de savoir exactement quelle est la situation. Donc il a été rappelé qu'il y avait eu deux rapports faits par Ren Pratt en 2006 et 2009 qui sont remarquables, que vous trouvez sur Internet, et qui traitent uniquement du spectacle vivant et qui sont d'une éloquence sans appel et qui effectivement ont créé cet effet de scandale qui, à la suite de quoi, s'est créé le collectif HF. Donc Laurence Equilbé a commandé alors une étude à deux étudiants qui ont repris un peu ces données dans le domaine de la musique et qui ont montré que la situation n'était guère meilleure. Donc je pense qu'on peut passer sur ces constats parce qu'ils sont assez unanimes et ils sont très clairs aujourd'hui. Donc le premier travail du ministère de la Culture, c'est de faire le point et de mettre en place un dispositif d'observation récurrent, régulier, ce qui n'est pas le cas, puisqu'effectivement, comme ça a été dit, depuis 2009, les données de Rennes-Pratt n'ont pas été actualisées. D'une part, donc les actualiser tous les ans, et deuxièmement, excusez-moi, là je suis à Avignon et nous parlons spectacle vivant, mais le ministère de la Culture souhaite élargir ses données à l'ensemble du domaine, du champ qui est le sien, c'est-à-dire les arts plastiques, le cinéma, l'audiovisuel. Donc c'est le domaine d'observation des arts et de la culture qui doit être pris dans le champ de ce futur observatoire des arts et de la culture avec des données régulièrement actualisées. Donc ça, c'est la partie observation qui est essentielle parce qu'on a vu donc, l'effet du rapport Rennes-Pratt qui, pour reprendre une formule devenue célèbre, c'est rendre visible l'invisible. Et donc je crois qu'effectivement, c'est le premier choc qui vient de là. Il faut rendre visible l'invisible donc par une information régulière. Bon, ça, c'est le premier travail du ministère. Le deuxième travail, c'est de faire en sorte de mettre en mouvement les gens, les uns et les autres, et là il y a de multiples pistes qui sont possibles, qui sont étudiées, même si rien n'est facile. Donc ça va, je vous dis un peu dans le désordre, de campagnes de communication et d'information à la définition de vivier d'artistes. Donc quand on a dit ça, c'est pas si simple parce qu'après il faut voir comment ça se met en place. De la formation dans les écoles, conservatoires, écoles d'art sur ces questions, en passant, comme ça a déjà été évoqué, et moi je crois que c'est essentiel, à des obligations contractuelles dans le cadre des cahiers des charges avec les établissements publics nationaux ou collectivités, et des efforts considérables faits pour les nominations des dirigeants des différentes institutions, parce que c'est vrai que c'est extrêmement important que l'exemple aussi, le rôle exemplaire de la nomination de dirigeants de scènes de théâtre ou de musique, etc., est absolument décisif. Mais peut-être qu'on reviendra sur toutes ces mesures possibles.
Pardon, mais je vais vous poser une question qui va sûrement vous fâcher, mais est-ce qu'il est sain de passer par des obligations contractuelles, justement ?
Ben, moi, je vois pas pourquoi ça ne serait pas sain, je vois pourquoi ça serait malsain. Si effectivement la situation...
Parce que ça pourrait entraîner un climat qui serait pas forcément un très bon climat aussi par la suite.
Je ne sais pas ce que vous voulez dire en termes de climat. L'idée, si vous voulez, c'est de mettre les choses en mouvement. Bon, aujourd'hui, elles ne le sont pas. Et on a cité un certain nombre d'exemples sur lesquels je ne reviendrai pas. Donc l'idée, c'est de demander à tous les responsables de programmation de faire en sorte que ce soit un critère, que ce critère soit pris en compte. Ce n'est pas forcément de leur dire « demain, vous programmerez 50% d'auteurs femmes ou de mise en scène femmes », mais c'est de leur dire « dorénavant, prenez en compte cet aspect des choses et rendez-vous dans un an, nous verrons comment vous avez pris en compte ». Et quand on dit « comment », ça veut dire aussi « quelles difficultés », etc. Parce qu'il ne faut pas se leurrer. Bon, c'est évident qu'il y a des résistances qui sont considérables et que cette idée, si vous voulez, d'une égalité plus grande va forcément... rencontrer la liberté de programmation dont les responsables d'établissement, que les responsables d'établissement mettent en avant. Et à juste titre, ils sont libres de leur programmation. Néanmoins, si à aucun moment on leur dit « vous devez être attentif à ça », sauf s'ils sont personnellement persuadés que c'est extrêmement important pour les arts, la culture, la société, l'égalité, la démocratie, ils ne vont pas le faire. Donc c'est une incitation dans le cadre des cahiers des charges. Voilà. Ça, je pense que je ne vois pas pourquoi ça heurterait qui que ce soit.
Anne Bisson, quand vous avez pris la direction de cette institution qui était donc le...
La Comédie de Genève.
La Comédie de Genève, vous étiez donc, je crois, la première femme à prendre la direction d'une institution importante en Suisse.
Oui.
Vous avez mené une politique volontariste en direction des femmes, vous avez programmé des femmes, vous avez donné de l'argent à des femmes, j'ai dit cette expression tout à fait volontairement, et vous vous êtes heurté à des critiques, des attaques, des résistances, et voire même, on vous a traité de sexiste. C'est pour ça que je disais, est-ce que c'est sain ? C'est-à-dire, est-ce que ça ne va pas déclencher dans l'autre sens encore une plus grande animosité ou une plus grande réticence de l'autre côté ?
Alors, la vérité, c'est que le climat aujourd'hui est malsain.
Oui.
La vérité, c'est qu'aujourd'hui, la situation est désastreuse. Voilà. Je veux dire, il y a 51% de la population qui est méprisée, qui n'existe pas, qui est niée. Alors, moi, j'ai assumé alors parfaitement, effectivement, d'avoir été accusée de sexiste quand, la première saison à la Comédie de Genève, j'ai mis les moyens de création dans les mains de 4 femmes créatrices. C'était la première fois que ça arrivait, bien sûr. Peu de femmes avaient obtenu des moyens de création dans ce théâtre. Et donc, évidemment, ça s'est vu. Et je dirais que la provocation, elle a ouvert le débat. Ensuite, c'est vrai que j'ai été nommée sur un projet où, pour moi, c'était une évidence. C'était dans mon projet. Je me suis offert cette chance. C'est-à-dire qu'après, j'ai pu continuer sans qu'on m'embête avec cette question. Hein. Je l'avais liquidée d'une certaine façon.
Mais qui était le « on » d'ailleurs ? Qui était ce « on » qui vous embêtait avec cette question ?
Alors, qui sont les responsables, les maîtres de la domination masculine ? C'est tout ça. C'est personne, et c'est évidemment toute une société qui pense qu'il y a des réflexes qui, effectivement, disqualifient les femmes créatrices tout le temps, qui ne les appellent pas au micro, qui ne les appellent pas sur scène. Donc voilà, on est dans un climat aujourd'hui révolutionnaire. C'est tout. J'aime beaucoup la France et le pouvoir des mots et les grands débats sur les mots. Ils sont tellement importants. Certes, mais ne nous noyons pas dans un verre d'eau. Hein. Attention, il y a des mesures à prendre à tous les niveaux. Dans les cahiers des charges des directeurs, au moment des nominations, il y a 1000 petites façons de faire, et grandes façons de faire d'ailleurs, et façons claires de faire, pour que les choses changent. Les choses doivent changer. Nous sommes dans une situation d'injustice, et cette injustice, c'est l'ennemi de la démocratie. C'est elle qu'on doit combattre. D'urgence, le théâtre est un lieu éminemment symbolique. Il en va du reste de la société, il en va du reste des inégalités lorsque cet espace-là est capturé, est pris en otage par une partie de la population.
Je voudrais donner la parole à Myriam Marzouki, mais je voudrais repasser par Éric Fassin. Parce que Éric Fassin, j'ai lu sous votre plume quelque chose que vous avez écrit que je trouve très intéressant. Vous dites « Il ne suffit pas de savoir que nous sommes dans un monde qui organise l'inégalité pour souhaiter modifier cet ordre de choses. Une partie non négligeable des gens y trouve son compte. À quelles conditions peut-on espérer modifier ces rapports de force ? De point, à quel moment devient-il plus coûteux que moi d'être raciste, homophobe et sexiste ? Est-ce une stratégie, ça, Éric Fassin ?
Ben, en tout cas... J'entends tout à fait ce qui vient d'être dit à côté de moi. Je crois qu'effectivement, la question n'est pas tant de savoir si c'est sain ou malsain. On parle de rapports de pouvoir, et il est rare que les rapports de pouvoir soient modifiés dans le consensus. Politiquement, il y a des affrontements, et dans les rapports de pouvoir, quand ça bouge, il y en a qui se disent « j'ai perdu quelque chose », parce qu'il y en a d'autres qui vont se dire « j'ai gagné quelque chose ». Donc il me semble que l'idée qu'on arriverait à faire plaisir à tout le monde tout en changeant l'ordre des choses est contredite par l'expérience des derniers millénaires. Donc je crois qu'il faut assumer le fait que ce qu'on fait ou ce qu'on raconte, en général, ne plaît pas. J'imagine que ce que vous avez fait n'a pas plu. Je crois que beaucoup autour de cette table ont l'expérience de raconter des choses qui ne plaisent pas. Donc il me semble que, voilà, il faut vivre avec. Donc effectivement, la question, c'est, puisque ce sont des rapports de force inégaux, il s'agit bien de domination. Et de domination masculine. La question, c'est effectivement, on pourrait penser, une fois qu'on a posé cette inégalité fondamentale, que c'est inébranlable. C'est ça le risque, c'est qu'on démontre tellement bien l'inégalité qu'on a l'impression qu'on n'y peut rien, puisque depuis toujours, etc., etc. Donc c'est pour ça qu'il faut trouver des stratégies pour faire en sorte qu'il soit plus coûteux de préserver l'ordre des choses que de le changer. Et donc il me semble qu'un mouvement comme le mouvement HF vise, on le disait tout à l'heure, à faire honte, c'est-à-dire à donner l'impression que finalement, il est quand même beaucoup mieux, beaucoup plus moderne de vouloir faire changer les choses que de vouloir les préserver.
Myriam Marzouki, qu'en pensez-vous ?
Moi, je me sens très portée par l'énergie que Anne Lissant vient d'exprimer. C'est-à-dire que je crois que définitivement, il faut arrêter de faire de la métaphysique, il faut arrêter de se poser la question de savoir si la parité s'est fondée sur la nature, la culture, etc. Il faut arrêter, il faut juste partir effectivement cette situation qui, en effet, est une situation qui n'est plus acceptable. Moi, je voulais juste vous donner peut-être une manière de vous présenter mon engagement dans HF en tant que militante de l'association Être metteuse en scène. C'est que j'ai deux enfants qui sont deux filles. J'en ai une qui a 7 ans et qui était en train de dessiner il y a quelques jours. Et puis, elle s'arrête et elle me dit est-ce que les femmes, elles peuvent être peintres aussi ? Alors j'étais un peu étonnée, je lui dis bah oui, bien sûr. Il me dit mais quand on est allé voir une exposition au musée et puis quand on est allé voir une exposition au centre Georges Pompidou, bah, tous les peintres étaient des messieurs. Voilà. Alors elle a 7 ans, on est en 2012. Dans le programme de partenariat entre l'école municipale parisienne et puis élèves au cinéma, ils sont allés voir un film de Jacques Tati et puis un très beau dessin animé de Michel Ousselot. Donc sa jeune expérience pour l'instant de jeune spectatrice, hein, de fillette, c'est qu'elle a été confrontée à des créateurs qui sont des hommes, au point qu'elle me pose la question si une fillette pourrait aussi être peintre. Donc une manière pour moi de présenter mon combat, qui est le nôtre, serait de dire que j'aimerais que, quand ma fille sera majeure, c'est-à-dire dans une dizaine d'années, les fillettes aujourd'hui puissent, comme les garçons, se représenter avec une sorte d'évidence la possibilité d'être chef d'orchestre, d'être plasticienne, d'être metteur en scène, d'être compositeur, d'être joué, d'être reconnu comme artiste, et que ça se présente avec la même évidence, le même naturel, c'est-à-dire, en réalité, derrière le mot naturel, il y a avec la même fabrique politique et culturelle de ce phénomène. Je crois que ce qui est très important dans ce que vient de dire Anne Bisson, c'est que fondamentalement, si la question peut être jugée malsaine, c'est qu'elle touche fondamentalement à une question de pouvoir. Il est question de savoir si nous allons ou pas partager un triple pouvoir. Un pouvoir de représenter le monde. Moi, je trouve qu'il n'est plus acceptable d'avoir des situations comme la saison 12-13 du Théâtre de l'Odéon, où on a des hommes qui interprètent le monde, qui le symbolisent, qui le représentent, qui le fantasment, qui le délirent, et une assemblée paritaire de fait, mixte de fait, voire plus féminine, puisque d'ailleurs, vous en êtes la preuve, mais c'est vrai que sur ces questions-là, les messieurs sont moins souvent présents, mais dans le programme du OFF, on nous dit que 65% des spectateurs du festival OFF sont des femmes. Je n'ai pas les chiffres pour les IN, mais je pense, à vue de nez, en faisant un peu de sociologie sauvage, que elles sont, vous êtes, nous sommes spectatrices largement majoritaires, et il n'est plus acceptable qu'il y ait cette sorte de contraste entre ceux qui disent, qui s'expriment, qui représentent, et ceux qui entendent, qui payent leur place de spectacle et qui viennent s'entendre délivrer le propos. En même temps, ce que je voulais dire pour anticiper sur une éventuelle objection, c'est que cette question de la revendication de parité, aussi bien dans les programmations qu'à la tête des institutions pour exercer le pouvoir politique de nommer et de choisir. Il n'est pas du tout question de se battre pour une quelconque spécificité de l'écriture féminine, du geste créateur féminin. Nous ne voulons plus des focus sur l'écriture féminine, nous ne voulons plus des temps forts sur les femmes et le théâtre, nous ne voulons plus des programmations où il y a un petit moment avec des formes légères à transporter partout, programmées par des femmes. Nous voulons des moyens de production. Voilà. Nous voulons des sous pour faire des spectacles, parce que faire un spectacle, ça coûte de l'argent. Quand on a 50 000 euros, on fait une petite forme. Quand on a 500 000 euros, 600 000 euros, 200 000 euros, on fait une grande œuvre. Et on peut ensuite débattre de la révolution esthétique en cours, des changements de forme. Et à ce moment-là, on est interrogé en tant qu'artiste. C'est cela que nous voulons, rien d'autre, juste cela, c'est-à-dire l'égalité.
Geneviève Presse. Vous êtes venue avec un papier de la terrasse qui... nous avons des oiseaux qui ne sont pas contents de ce que vous dites, Myriam Marzouki. Ils se manifestent de manière virulente. Ça doit être un mal. Geneviève Fraisse.
Oui, non, je vais effectivement enchaîner. J'ai apporté un petit document qui date de mai 2012, d'un journal que vous connaissez tous ici, parce qu'il est distribué devant tous les théâtres, et qui s'appelle « La terrasse ». Et je vais enchaîner parce que c'est une façon de passer au débat de la question de la parité, au débat qui s'amorce désormais depuis quelques instants sur la représentation de ce qui serait la domination masculine, mais qui est liée à la parité, qui est, au fond, il faudrait rattraper un retard, ce qu'on a beaucoup dit pour la parité politique, et on arriverait enfin à un partage, des subventions, à un partage des possibilités, et ça serait ça que devrait faire le ministère, entre autres, et les responsables politiques qui sont ici. Or, ce qui se passe, c'est que ce n'est pas une question de retard, c'est bien entendu une question de désignation de la domination masculine, mais qu'est-ce que cette domination masculine ? C'est précisément plutôt de l'archaïsme qu'autre chose, et ce que je voudrais vous montrer par ce petit exemple. que j'ai apportée du journal La Terrasse de mai 2012. Voilà qu'au Théâtre de l'Ouest parisien, à Boulogne, à côté de Paris, il y a la deuxième édition du festival de Seul en scène. Et comment présente le journal La Terrasse ce festival Seul en scène ? Il parle de ces comédiennes d'exception qui vont incarner l'éternel féminin sous toutes ses formes, à travers des expressions artistiques, etc., du point de vue féminin sur le monde. Mais il ne s'agit pas de la question de l'écriture féminine dont parlait à l'instant Myriam. Il s'agit de ce que j'appelle l'archaïsme. C'est-à-dire que ce qu'on veut vous montrer quand on vous parle des femmes et quand on vous ressort la domination masculine ou qu'on veut vous parler des femmes, c'est cet éternel féminin qui n'existe plus. Pourquoi j'y tiens ? L'éternel féminin, c'est Goethe. L'éternel féminin, c'est la métaphysique. C'est ce qui a été exprimé au début du XIXe siècle. C'est ce qui a été déconstruit par les philosophes pendant deux siècles. Donc nous sommes en désaccord chronologique. On vous explique au début du XXIe siècle ce qui n'existe plus dans la philosophie depuis des décennies. On vous raconte une histoire qui n'a plus lieu. Mais ça ne gêne aucun critique. Ça ne gêne aucun responsable de littérature critique. Donc on vous raconte une histoire qui n'a plus de sens, parce qu'il s'agit des femmes. Donc ce n'est pas la question de la spécificité, c'est simplement que ressort, on ne sait où, on ne sait quelle préhistoire, quand il faut parler des femmes, quelque chose qui est hors du temps. Parce que l'éternel féminin, il a été remplacé par la condition féminine dans le milieu des années du XXe siècle, comme la condition humaine de Malraux et la condition féminine qu'utilise Simone de Beauvoir au milieu du XXe siècle. Excusez-moi de faire un petit détour. Scientifique, et que tout ça, pour moi, a été mis en cause dès les années 70 par nous-mêmes. On n'en a plus voulu de la condition féminine. Pour ma part, j'ai essayé de balancer ça par-dessus bord, la condition féminine dès les années 70. Et voilà qu'on nous le ressort, l'éternel féminin, qu'on ne voulait déjà plus il y a 40 ans. Donc, on n'est pas dans le retard, on est juste dans le hors du temps qui n'a pas d'âge. Donc, et après ça, on pourrait appeler ça la spécificité féminine ? Non, même pas. Donc la domination masculine, ce n'est pas le stéréotype et la norme dont parlerait la domination masculine, pardon Eric, pour la sociologie, certaines sociologies, c'est même pas de ça dont il s'agit. C'est d'un archaïsme qui vient du fond des âges, mais qui n'a pas d'âge. Et ça, c'est en mai 2012, dans La Terrasse, journal où on vous présente quatre merveilleuses comédiennes, par ailleurs.
Dans un festival dédié aux femmes, exclusivement.
Voilà, ben ça, ça ne va pas. Et moi, je saute au plafond quand j'ouvre La Terrasse, en mai 2012, parce que ces trois lignes, elles n'ont rien à voir avec rien. Et puis, les quatre femmes, je peux vous les citer, c'est Véronique Caille, Caroline Marcadet...
Dominique Valadier,
donc, excusez-nous du peu, mais enfin, voyez, ça n'a pas de sens. Et le titre, j'avais oublié le titre, Le royaume féminin à l'honneur.
Ça fait mal.
Est-ce qu'on peut, sérieusement, à côté de ça, on peut parler parité, mais voyez, est-ce qu'on peut sérieusement être en 2012 ?
Mais justement, est-ce qu'on peut prolonger cette question, Geneviève ? Et je voudrais bien qu'on entende aussi Jean-François Perrier, qui rayonne dans le théâtre et qui en connaît absolument toutes les méandres. Pourquoi ? Est-ce qu'on peut trouver une explication au fait que le spectacle vivant, la culture, le théâtre, dont on pourrait attendre qu'il soit sur des avant-postes, des avant-gardes, pourquoi le spectacle vivant, à ce point-là, c'est Mai, je crois, qui dit qu'à l'armée, il y a plus de femmes, hein, visiblement au poste de responsabilité. Pourquoi ?
C'est dans le rapport Rennes-Pratt, effectivement, qu'on est moins fort qu'à l'armée.
Pourquoi le spectacle vivant fait-il tâche, au fond ? Est-ce qu'il y a une explication qui va au-delà de 2012, du rapport Rennes-Pratt, qui remonte avant à autre chose, qui va taper ailleurs ?
Alors, des explications, moi je n'en ai pas. Des questions, oui. C'est-à-dire que, d'abord, je voulais dire sur ces questions des quotas, de la parité et tout ça. Je pense que c'est très important que le ministère de la Culture, dans les contrats qu'il signe avec les gens qui prennent la direction des établissements, je pense en effet que c'est stupide de dire il faut que vous fassiez 3 spectacles de femmes ou 4 ou je ne sais pas quoi ou il faut qu'il y ait 5 metteurs en scène. Pourquoi ? Pour une raison très simple, c'est que les femmes metteurs en scène sont comme les hommes metteurs en scène. C'est-à-dire qu'il y a des années où elles produisent un spectacle, il y a des années où elles n'en produisent pas. Parce que, voilà, elles ont des projets. Alors si une année, il y a très peu de projets, entre guillemets, de femmes, il y en aura 3, le directeur en prendra un par obligation. Ça, je ne suis pas d'accord. Par contre, je pense qu'obliger les directeurs d'institutions à être curieux, c'est-à-dire à aller voir ailleurs que dans le petit enclos où d'habitude ils font leurs recherches, ça c'est une chose qui est absolument essentielle. Rendre les gens curieux. Et par cette curiosité de découvrir que, en effet, il n'y a aucune différence entre des projets féminins ou masculins. Moi, ce qui... Alors c'est vrai, je pense que j'ai beaucoup de chance, parce que je suis dans des endroits très différents dans le théâtre, à la fois comme comédien, mais aussi quand je travaille dans les institutions pour écrire des textes ou pour m'occuper de journaux de théâtre. À la Drac Île-de-France, où je suis au comité d'experts, et où là je travaille avec les compagnies, compagnies d'ailleurs avec lesquelles je travaille aussi parfois quand je suis comédien, c'est-à-dire de regarder comme ça. Et il y a des choses qui m'ont paru curieuses. Il y a des lieux d'égalité dans l'institution, entre guillemets. Il y a un lieu d'égalité formidable, ce sont les écoles de théâtre. Que ça soit au conservatoire à Paris ou à l'école du TNS ou dans toutes les autres écoles, il y a une parité absolue en général, à raison de, par exemple, 6 hommes, 5 femmes une année, 6 femmes, 5 hommes l'année d'après. À cet endroit-là, il y a une vraie parité. Égalité. Je reviens à égalité parce que j'aime beaucoup le terme égalité. Et donc, la question que je me suis posée, par exemple, c'est pourquoi... Maintenant, c'est un petit peu différent puisqu'il y a des écoles de metteurs en scène. Mais pendant très très longtemps en France, les écoles de théâtre n'étaient que des écoles de comédiens et parfois de régisseurs, mais de comédiens. Et le chemin pour devenir metteur en scène était d'être d'abord acteur. Et je me suis dit, puisqu'il y a dans ces écoles autant d'hommes que de femmes, pourquoi il y a moins de femmes metteurs en scène après que d'hommes metteurs en scène? Alors, grâce à des relations amicales avec mes Bouada, je me posais la question, mais ça restait quelque chose comme ça un peu, je me disais, tiens, c'est bizarre. Alors, à cause d'elle, qui m'a quand même un petit peu, comme ça, agressé, en me disant, il y a quand même une raison, bon, très bien. Alors, je me souviens, j'étais au Théâtre National de Strasbourg, et nous avions, le théâtre a été refait complètement, on a fermé. Et avant de fermer, on a invité tous les anciens élèves de l'école, quelles que soient les sections, comédiens, régisseurs, techniciens, tout ça. Il y en avait environ 500, il y en a 350 qui sont venus. Et donc, j'ai posé des questions quand même, où les gens se retrouvaient, parfois les comédiens se retrouvaient. Alors là, j'ai compris une certaine chose, c'est que par rapport à toutes les comédiennes qui étaient sorties de l'école et tous les comédiens qui étaient sortis de l'école, au moment où, à un certain âge, les comédiens qui avaient envie ou à qui on proposait de faire de la mise en scène continuaient à travailler, beaucoup de comédiennes arrêtaient de travailler. Ça, c'est quelque chose qui m'avait beaucoup troublé, puisque, en effet, parmi ces femmes qui sont venues, qui sont revenues au TNS, elles disaient, moi, j'ai arrêté à 25 ans, à 26 ans, à 30 ans. Et chez les hommes, c'était vraiment pas du tout le cas. Donc, ça rejoint quelque chose. Bien sûr, maintenant, il y a des écoles de mise en scène, donc je pense que les choses vont être un petit peu différentes. Mais ces lieux d'égalité, ils existent. Je vois, par exemple, il y a un lieu d'égalité à la Drac Île-de-France, puisque parmi le comité d'experts de la Drac Île-de-France, nous arrivons cette année à 15 hommes et 15 femmes. Il y a eu jusqu'à 17 hommes et 13 femmes. Là, on est à 15 hommes et 15 femmes. Je vois au niveau des gens qui sont dans les services de la Drac, la directrice de la Drac est une femme, les différents chefs de bureau et de services sont aussi des femmes. Il y a des endroits comme ça où les femmes sont présentes. La question, bien entendu, c'est celle... Alors moi, je n'ai vraiment pas la totalité des réponses, j'ai des pistes comme ça. C'est pourquoi, tout d'un coup, dans les compagnies, on a à peu près autant d'hommes que de femmes. Les aides que nous accordons aux compagnies ou aux conventionnements, c'est vraiment absolument... les pourcentages sont exactement les mêmes des aides que nous accordons aux hommes et aux femmes. Il n'y a pas de critères, il n'y a pas de choses comme ça. Sauf que quand on arrive au niveau des compagnies, on peut avoir ça. Le problème, c'est quand on passe à l'étage supérieur, et c'est là vraiment à l'étage supérieur, que ça bloque, c'est-à-dire au moment où on arrive dans des postes qui sont en effet des postes de pouvoir. Et là, je pense qu'il y a des explications. Moi, personnellement, je ne les ai pas toutes.
Alors, Nicole Pau, ensuite May et Geneviève.
Oui, plusieurs choses. D'abord, pour ce qui est cette question du volume de subventions attribuées aux unes ou aux autres, là, ce que je propose, c'est que le ministère de la Culture, parce que j'ai vu des réactions dans la salle de certaines qui s'insurgeaient sur ce que vous avez dit, monsieur, je pense que...
J'ai les chiffres.
Pardon ?
J'ai les chiffres de la DRAC.
Donc, ce que je peux dire très simplement, c'est que le ministère de la Culture, de par la responsabilité qui m'a été confiée par la ministre, va s'engager à faire une étude sur cette question.
Très important.
Parce que je pense que ce qui est très important, c'est que dans un premier temps, il y a un accord sur les chiffres. Voilà, pour éviter des discussions inutiles. Et je pense que c'est vraiment la responsabilité du ministère, à partir du moment où la ministre est engagée sur ce sujet que de le faire. Bon, la deuxième chose, c'est que vous avez exprimé votre réticence à l'idée d'inciter fortement, je suis très prudente dans mes propos, les directeurs d'institutions à programmer des pièces écrites par des auteurs femmes ou mises en scène par des auteurs femmes. Moi, je pense que s'il n'y a pas une attitude assez volontariste, ça sera extrêmement difficile de faire évoluer les choses. Alors, vous avez dit, oui, mais alors, les femmes, en gros, on a du mal à les trouver parce qu'elles n'écrivent pas tous les ans. Alors, là, il y a un autre sujet qui est un sujet, c'est un peu ce que vous avez dit, c'est un sujet d'observation. Donc, on sait aujourd'hui que des écoles d'art ou conservatoires de théâtre, musique, etc., sortent autant de jeunes femmes que de jeunes hommes, sinon plus, d'ailleurs. Et donc, je ne vois pas pourquoi, du coup, on ne pourrait pas trouver des auteurs, enfin, en l'occurrence, plutôt des metteurs en scène, qui sont des femmes. Je ne comprends pas très bien. Donc, il ne s'agit pas de dire que d'un coup, d'un seul, on va passer à 50% dans la saison 2013-2014, je vous rassure, mais que quand même, il y ait un progrès, alors, qui soit peut-être défini en fonction du théâtre, de sa particularité, de sa programmation, mais qu'il y ait quand même, de la part de chaque directeur d'institution, un objectif, on va dire, de progrès, pour parler un jargon technocratique, et que cet objectif de progrès soit vérifié chaque année. Ça me paraît quand même quelque chose d'envisageable, et je pense que s'il n'y a pas cette discussion entre le ministère ou la collectivité locale et le directeur d'établissement ou la directrice d'établissement, le progrès sera extrêmement difficile. Je voudrais rajouter, si vous permettez, autre chose. Vous avez dit que les femmes aussi, au bout d'un certain temps, elles s'évaporent, si je puis dire. Ça doit être l'éternel féminin dont parlait Geneviève.
J'ai précisé chez les comédiennes. Chez les comédiennes. J'ai parlé chez les comédiennes.
Oui, tout à fait, chez les comédiennes. Alors, ça pose une autre question qui, effectivement, alors qui n'est pas du tout spécifique au milieu théâtral, qui est beaucoup plus générale, ça pose deux questions. La première, c'est la compatibilité entre le travail et la vie familiale. Donc, si elles s'évaporent, ces jeunes comédiennes, c'est comme par hasard vers 35 ans, bref, 30 ans, oui, merci, à l'âge où elles ont des enfants. Donc, le problème de l'égalité, c'est un problème de société, c'est un problème politique, c'est un problème de démocratie. Ça veut dire que si effectivement les choses évoluent pour les femmes, elles évoluent pour l'ensemble de la société, et y compris pour les hommes. Bon. Et la deuxième chose que je souhaitais dire par rapport à cette évaporation des comédiennes, c'est en fait pourquoi ça se passe. Alors il y a cette question effectivement de la compatibilité vie familiale professionnelle qui est absolument essentielle, à mon avis, sur laquelle il faut trouver des solutions qui dépassent largement le ministère de la Culture et de la Communication. Mais je crois qu'il faut aussi réfléchir aux causes de cette situation. Donc Geneviève Fraisse a parlé d'une vision préhistorique de la domination masculine, à laquelle j'adhère complètement. Je pense qu'il n'y a pas eu de société vraiment matriarcale, c'est un leurre. Mais la question qui est posée, c'est celle des stéréotypes et des représentations. Donc si on veut être concret et avancer, ça veut dire qu'il faut regarder comment, j'étais très sensible à ce que disait, excusez-moi, je suis plus haute, ma voisine de gauche, qui parlait de sa fille, qui lui disait, mais enfin, est-ce que je peux être peintre, parce que je vois que des peintres hommes. Donc, il y a une question de stéréotypes et de représentations. Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour faire avancer les choses? Donc, moi, j'ai un certain nombre d'idées très, très précises sur la question, enfin, d'idées très arrêtées, en tout cas. Je crois énormément à l'éducation. Bon. Et donc je pense qu'il y a un énorme problème pour ce qui est de l'éducation, sur les manuels scolaires, sur la façon dont les choses sont présentées, la façon dont la vie familiale, la vie professionnelle est présentée. Il y a eu de multiples études et analyses sur cette question. Je crois qu'il faut les renforcer et faire en sorte qu'au niveau de l'éducation nationale, on arrête de présenter toujours l'artiste masculin pour revenir dans le domaine de l'art, mais on pourrait gloser sur d'autres domaines. Et puis il y a les médias, la télé, la presse écrite, la presse audiovisuelle. Et quand, là aussi, pardonnez-moi, je fais référence encore à un autre rapport, pardon, qui a été fait par Brigitte Grézy sur l'image des femmes dans les médias, qui est remarquable, je vous en recommande la lecture, vous le trouvez sur Internet, et qui est mais absolument décapant. On parle beaucoup des rapports de Rentrap, mais je crois qu'on peut aussi parler de celui-là. Et tant qu'effectivement, il n'y aura pas... Alors, il paraît que les Français passent 3h47, je crois, très précisément par jour, devant leur poste de télévision. Bon, c'est absolument colossal. Comment voulez-vous en sortir indemne? Donc il est évident que s'il n'y a pas, sur les chaînes de télé, notamment publiques, mais pas forcément uniquement publiques, dans la presse écrite, la presse audiovisuelle, une prise de conscience sur ces questions et vraiment des actions pour faire en sorte que ça ne soit pas toujours des experts, mais qu'elles soient des experts, que l'image qui est donnée de la femme, ça ne soit pas toujours la femme un peu bêtasse, ou je ne sais pas, enfin bon bref, tous les stéréotypes, ça, les choses n'avanceront pas. Et c'est dans ces domaines-là qu'il faut avoir des actions, à mon avis, extrêmement concrètes. Et pour en terminer sur le ministère de la Culture, le ministère de la Culture étant également le ministère de la Communication, il me semble que nous devons réfléchir, et la ministre sûrement ne manquera pas de réfléchir à cette question, puisque on parlait des cahiers des charges tout à l'heure, mais les chaînes de télévision publique sont aussi soumises à des contrats d'objectifs et de moyens. Donc voilà, c'est une suggestion, je pense, que nous pouvons lui faire collectivement.
Alors oui, Jean-François Perrier, mais et Myriam qui voulait prendre la parole.
C'est ce que vous venez de dire, je suis tout à fait d'accord. Et la question que je posais, c'était justement pourquoi j'ai dit ça, pourquoi j'ai parlé de cette évaporation. C'est parce que je pense que ça correspond à un phénomène qui n'est pas lié uniquement au milieu culturel. C'est-à-dire que, en effet, quand on posait la question à ces comédiennes, pourquoi vous ne faites plus ? Alors il y a un autre élément, bien sûr. C'est le problème des rôles dans le théâtre. C'est aussi le deuxième. C'est pour ça. C'est une chose très particulière. Donc c'est une vraie question qu'on peut se poser. La seule chose, c'est, alors je voulais être très précis, on est toujours un peu rapide quand on parle comme ça, c'est sur les obligations contractuelles pour créer. Non, ce que je pense, c'est qu'en effet, ce que je crois, c'est que c'est sur la durée des mandats, voilà, que les choses doivent être extrêmement claires. Pas une fois, il y avait eu une tentative d'un ministre de la Culture, je ne citerai pas, de dire il faut que vous montiez deux auteurs contemporains par an. Voilà. Par an, deux auteurs contemporains. C'est-à-dire, si une année, vous en faites trois, eh ben non, c'est pas bon, il en faut deux. Et puis l'année d'après, il en faut deux, puis il en faut encore deux. La question, c'est sur, à mon avis, un mandat que, en effet, le ministère de la Culture doit être extrêmement vigilant sur ce qui est fait ou ce qui n'est pas fait. Voilà, c'était juste une toute petite précision sur le problème de l'annualisation, si vous voulez, des contraintes. Voilà.
Mais vous voulez prendre la parole?
Oui, je veux prendre la parole en répondant à plusieurs points, Jean-François, de ce que tu dis. Par exemple, sur les mandats, l'association HF propose déjà un outil qui s'appelle les saisons égalité, qui permet aux lieux de théâtre de s'emparer de ces questions, à la fois dans l'ordre de la gouvernance, dans l'ordre de la programmation et dans l'ordre de la communication, sur 3 ans. Voilà. À partir de là, à l'intérieur de leur propre saison, ils regardent quel argent a été donné aux productions. C'est-à-dire qu'effectivement, si on programme dans la petite salle de la colline un tout petit spectacle avec 2 acteurs, ça coûte beaucoup moins cher que la grande salle. Combien de fois le grand plateau a-t-il été occupé à la colline depuis sa construction, première chose. Donc ça peut se faire sur 3 ans. Et je pense que, bien sûr, il faut réfléchir en accord avec les partenaires sur les modalités. Mais il faut arrêter d'être timide. C'est-à-dire que pour ce qui est du vivier, le vivier existe, le vivier a été formé, le vivier souffre, le vivier n'en peut plus, le vivier est épuisé. Les femmes se présentent à des postes de direction, on connaît plusieurs cas de femmes qui ont été refoulées des postes de direction. Peut-être il faut interroger le nombre de centres dramatiques nationaux en France. Pourquoi pas ? Enfin, a priori, on peut aussi considérer qu'on peut créer plus de lieux de création dotés d'avantages. Il n'y a pas aussi cette espèce de système inaltérable et inaltéré. S'il y a plus de gens, il y a plus de gens, tant mieux. Deuxième chose, sur la question des rôles. Effectivement, grâce à la SACD, nous avons travaillé à une étude avec Muriel Couton, et on a travaillé à une étude sur les textes et sur la part des femmes auteurs dans le domaine dramatique. Il se trouve que nous sommes sur une évolution assez importante de jeunes femmes écrivaines et auteurs de théâtre qui sont maintenant à peu près à 35-40%. Dans ces textes-là, il y a de nombreux rôles de femmes. Et plus la société avance, plus ces femmes parlent du monde, plus elles en parlent, sortant de la maman et de la putain. Bon, sachant cela, ces textes-là ne sont pas produits. Combien de femmes ont eu l'aide à la création, mais ne sont pas rentrées en production au niveau des auteurs? On a une véritable difficulté à mettre en production le texte des auteurs. C'est-à-dire que tout bloque. Ces textes-là, il faut les rendre visibles, il faut les faire connaître, il faut que les actrices puissent s'en emparer. Enfin, sur la question de l'égalité dans les écoles d'art, je ne parlerai pas d'égalité, je parlerai de mixité. Voilà. C'est-à-dire qu'effectivement, nous sommes dans une mixité, sauf que jusqu'à présent, il y a eu très peu d'écoles de mise en scène. Nous étions dans des écoles d'acteurs ou d'actrices. Il y avait très peu de formation. Donc, à l'heure actuelle, il y a aussi beaucoup un manque de formation des metteurs en scène
à qu'est-ce que c'est le monde dans lequel il va évoluer, et donc des outils qu'il peut avoir pour rentrer en production, pour élaborer ses productions. Mais je pense que, à vrai dire, à partir du moment où le voile est levé, où on arrête de ne pas voir ces choses, où on arrête de mentir aux jeunes actrices, aux jeunes metteuses en scène que tout va aller bien parce qu'on est en 2012, c'est ce mensonge qu'il faut enlever. À partir de là, chacune peut se bagarrer et chacun aussi.
Geneviève, presque. Mais vient de dire ce que je voulais dire, il faut distinguer mixité et parité. Dans les écoles, il y a de la mixité, pas seulement dans les écoles d'art. La mixité n'a jamais... Et la parité, c'est la mixité dans les lieux de pouvoir. C'est la seule chose qu'on avait oublié de dire tout à l'heure, moi la première. Donc la parité, c'est la mixité dans les lieux de pouvoir. Donc on peut avoir la mixité dans les écoles, et puis après, vous avancez, et bien avant de faire des enfants, les femmes ne vont pas s'évaporer, c'est comment le pouvoir vient aux garçons. La question, c'est... J'avais fait un test comme ça avec deux témoignages de filles qui, fin de Sciences Po et fin d'école secondaire, le pouvoir était venu aux garçons. Ils avaient pris le pouvoir dans le ciné-club, par exemple. Ils avaient pris le pouvoir parce qu'un couple à Sciences Po allait partir à l'étranger, ben, l'amoureuse allait suivre l'amoureux. Et ben, du coup, c'est l'amoureux qui allait prendre le pouvoir parce que la fille allait suivre le garçon. Et ben, comme ça, ça fait que la fille s'évapore dans la promotion qui arrive. Et le pouvoir vient aux garçons. Le bébé n'est pas encore là. Le bébé, c'est plus tard. Donc, l'histoire de l'articulation entre faire un bébé et faire sa vie professionnelle de création, etc., c'est plus tard. Donc, le pouvoir vient aux garçons avant. Donc, après la mixité et avant. Donc, distinguons bien mixité et parité, ça me paraît absolument fondamental, parce que c'est la question du pouvoir, donc de la domination masculine. La mixité, c'est évidemment la réussite des filles. Ça, c'est complètement clair. La deuxième chose que je voudrais dire à propos de la représentation, moi, je distingue archaïsme et stéréotype. Archaïsme et représentation, c'est deux choses distinctes. Un autre exemple, à propos de devenir peintre. Allez à l'exposition Berthe Morisot, elle est peut-être finie, et puis vous voyez le premier panneau. Le premier panneau vous dira que Berthe Morisot, la peintre Berthe Morisot, première ligne, deuxième ligne, troisième ligne, vous apprenez que c'est une muse. Ah, c'est une muse, c'est pas une femme peintre, c'est pas une artiste. Ben non, c'est ce que j'appelle la muse inoxydable dans mes textes. Elle est inoxydable, la muse. Vous pourrez être peintre. Bien sûr, elle a été modèle, Berthe Morisot. Bien sûr. Mais c'est une femme peintre. Ben non. Le premier panneau va vous dire que c'est une muse. Hein, inoxydable. On est passé du fer blanc à l'inoxydable dans mon enfance. Ben voilà. La muse est inoxydable. Voilà ce que cette jeune petite fille rencontre sur son chemin. C'est qu'elle pourrait devenir muse même si elle peint toute sa vie. Ben regardez maintenant, regardez le moindre texte. Vous l'avez là, dans moi je n'arrête pas, je les collectionne. Je collectionne les papiers où on parle de la femme muse, quelle que soit sa position de créatrice. C'est extraordinaire. Ça, c'est pas de la représentation. C'est un vieil archaïsme dont on ne se défait pas. Qu'est-ce qu'on va faire pour ça? Suffit pas... C'est pas seulement une question de stéréotype. Ça vient de plus loin. Voilà, j'ai un truc avec la question de la muse.
Alors, une réponse peut-être...
Je voudrais bien qu'on entende Éric Fassin, qu'on n'a pas beaucoup entendu. Ah, mais
je vais lui passer la parole.
Non,
après.
Oui, absolument. C'est juste pour que sache qu'on n'oublie pas. Et Myriam.
En réponse peut-être à ce que vient de dire Geneviève Fraisse, c'est imposer, inscrire l'histoire des femmes à l'école... pas seulement dans les écoles d'art, pas seulement dans les écoles de théâtre, mais aussi dans l'école tout court. C'est absolument, là encore une fois, totalement injuste que les enfants, dans leur parcours de connaissance et d'apprentissage de la culture, n'aient affaire qu'à des exemples femmes. Il faut raconter l'histoire des femmes et il faut faire travailler les garçons et les filles sur cette tâche dans la démocratie. Il faut faire travailler les garçons et les filles sur cette absence, sur cette mutilation de la création des femmes à travers l'histoire. Voilà. Donc ça, c'est un moyen simple aussi. Je crois que j'ai oublié ce que je voulais dire après.
Oui, c'est la question du matrimoine que je trouve très intéressante. C'est-à-dire qu'effectivement, il faut que il n'y a pas un néant des femmes. Il y a une histoire, il y a eu des auteurs femmes, des écrivaines femmes, il y a eu des chefs de troupe, il y a eu des actrices, et il faut qu'elles puissent... être entendu, connu.
Voilà, et parce qu'on a décidé quand même de faire face à ça et de prendre la place qu'on voulait prendre. Mais combien de femmes aujourd'hui sont
des colonisés de l'intérieur, je dirais, hein, et qui acceptent et qui ont intériorisé leur position sexuée, le dégoût du pouvoir, le dégoût de l'action. Ça, c'est une question aussi extrêmement importante.
Alors, Éric Fassin et Myriam Marzouki.
Deux remarques sur cette question des normes et de leur intériorisation et du fait qu'on y est confronté, qu'elles viennent de l'extérieur et qu'au fond, le monde de l'art ne ferait que les refléter, etc. Deux remarques. La première, c'est qu'il me semble qu'une spécificité du monde de l'art, qui n'est pas exclusivement dans le monde de l'art, mais dans tous les mondes de la représentation, où on produit des représentations, c'est qu'il y a un côté performatif. C'est-à-dire que ce qu'on fait, ça fait advenir un monde. Et il me semble que, d'habitude, quand on en parle, c'est avec l'idée qu'au fond, le monde artistique ne ferait que refléter le monde qui est déjà là. Si j'ai bien compris, ça n'aurait aucun intérêt. Puisque si on va voir des spectacles, c'est parce qu'ils nous montrent ce qu'on ne sait pas déjà, ce qu'on n'a pas déjà vu. Donc, c'est parce que ça produit un monde. Et donc, je crois que, de ce point de vue-là, il est important de souligner que on n'est pas simplement déterminé par des stéréotypes, par des normes qui préexistent et qui viennent d'autres mondes, mais qu'on produit des mondes quand on a accès à la parole publique, sous une forme ou sous une autre, que ce soit dans le travail universitaire, que ce soit dans le travail journalistique, que ce soit dans le travail artistique. Ça, c'est la première remarque. Et la deuxième remarque, c'est que, encore une fois, le danger, lorsqu'on souligne à juste titre cette omniprésence de clichés, de représentations, de normes, de etc., etc., c'est que on peut en ressortir avec l'impression qu'on n'y peut rien. Or, il me semble que c'est très facile. Dans le monde de l'art, c'est un monde où il y a besoin d'argent. Si l'argent est conditionné à une exigence d'égalité, vous verrez que ça changera du jour au lendemain sans aucune difficulté.
Myriam.
Moi, je voulais revenir assez brièvement sur effectivement ce que Jean-François Perrier a souligné, à savoir ce qui est le cœur de notre réflexion, c'est-à-dire est-ce qu'on introduit ou pas de la contrainte. Cette contrainte s'appelle lettre cadre, cahier des charges, quota, enfin de la contrainte, quoi. Moi, ce que je voulais faire remarquer, c'est peut-être structurellement la situation qui est celle du nouveau pouvoir en place, qui me semble assez intéressante, puisque dans les deux cas, il s'agit bien de représentation. Alors, je voulais comparer deux situations. La première, c'est celle du gouvernement, qui est un gouvernement paritaire. Ce gouvernement, il est paritaire, donc dans une certaine mesure, il est conforme à l'exigence d'égalité. Pourquoi est-ce qu'il est paritaire ? Parce que le principe de la parité, ou en tout cas l'outil de la parité, a été posé comme préambule. C'est-à-dire que François Hollande avait dit « Si je suis élu, j'aurai dans mon gouvernement autant de femmes que d'hommes ministres ». À partir du moment où cette règle a été posée, les femmes, on les a trouvées. C'est-à-dire qu'on se donne comme règle que les femmes, on les nomme. Quand on les cherche, on les trouve. En revanche, dans la direction des cabinets, c'est-à-dire ce qui est l'endroit du pouvoir, mais l'endroit invisible du pouvoir, en laissant les mécanismes informels de cooptation, de réseau, d'entre-soi, d'interconnexion, de relations de grandes écoles, c'est-à-dire, bon, en gros, le vivier de l'ENA, eh bien, les directeurs de cabinet sont presque tous des hommes. Donc on voit bien, en prenant cette situation-là, qu'il y a deux possibilités quant à la question de la visibilité du pouvoir. Soit on pose une règle, et à ce moment-là, on trouve le vivier, et on sélectionne des femmes qui ont des compétences, pas en tant que femmes, qui ont des compétences tout court, mais parce qu'on a posé qu'il y aura des femmes qui auront des ministères, alors pas toutes des ministères régaliens, mais quand même des ministères qui ne sont pas que des ministères de jupette. Quand on ne pose pas le principe, quand on laisse simplement la mécanique rouler, eh bien, on aboutit à un système où il n'y a que des hommes. Et c'est là que je voulais en venir sur le deuxième point, c'est que ce qui est effectivement en cause aussi, alors Anne Bissan parlait de nos démons, moi je pense que c'est en ne le psychologisant pas tout simplement des effets de structure très forts, ce qui se passe c'est que, et c'est effectivement quelque chose qui vient de très loin, alors même si on ne remonte pas à des millénaires, c'est quelque chose qui est ancré dans une fabrication du social, les hommes ont une expérience plus précoce, parce qu'elle est produite par la société, de la fabrication du réseau, de l'apprentissage de la parole publique, de la cooptation.
Et donc, je pense qu'il y a quelque chose qui est à la fois de l'ordre d'une prise de conscience du côté des femmes, hein, qu'elles soient artistes ou non artistes, puisqu'il y a beaucoup de lieux, les scènes nationales, qui ne sont pas dirigées par des femmes, mais qu'il y a une responsabilité aussi des collectivités et du ministère à inciter les femmes à faire de façon peut-être volontariste ce qu'elles font moins facilement, de façon non pas naturelle, j'allais dire, mais dans une sorte d'évidence sociale qui, par conséquent, donne l'avantage aux hommes. Et c'est vrai que de ce point de vue-là, on se dit que en quelques années, le temps du diagnostic est passé, le temps de la prise de conscience est passé, et que je crois vraiment, comme Nicole Pau, qu'on ne fera pas l'économie d'une forme de volontarisme. Après, il s'agira de réfléchir techniquement sur les outils, de nommer cela quota, contrainte, cahier des charges, mais je ne vois pas comment, historiquement, aucune situation d'inégalité a évolué en laissant simplement les mœurs faire évoluer la loi. Il y a un moment, il faut que la loi soit en avant. En 1981, si par un acte de volonté fort, on n'avait pas aboli la peine de mort, elle n'aurait pas été abolie. Et bon, voilà, on peut prendre d'autres exemples apparemment éloignés de cette question qui nous occupe. Si à un moment, le politique ne se met pas un petit peu en avant, ne prend pas un tout petit peu d'avance, les choses peuvent prendre encore un siècle ou deux, vraiment.
En l'occurrence, il me semble quand même que le politique a fait un pas en avant, même dans son corps même à lui, quoi. Il peut y avoir quand même un effet de domino, non, qui peut se mettre en place. Entre la façon dont François Hollande accueille ou fait cette place-là aux femmes dans son gouvernement et ce qui peut se passer dans le spectacle vivant. Cela étant, moi, je n'ai pas la réponse à ma question que j'ai posée tout à l'heure. De quoi le spectacle vivant est-il héritier, sans doute à son insu, pour curieusement et paradoxalement être à ce point-là le mauvais élève? Il y a quelque chose, moi, qui m'échappe fondamentalement. Geneviève.
Je pense que ce n'est pas la question du mauvais élève. Je pense que c'est la question du deuxième enjeu symbolique fondamental après le politique. C'est le lieu de la création. Je pense que c'est simplement parce que, si je repense à la question des lendemains de la Révolution française, il y avait deux lieux où il y a eu une querelle sur l'impossibilité de l'égalité entre les sexes. C'était le lieu du politique, c'est-à-dire de la citoyenneté, et le lieu de la création. Les deux querelles sont là, telles que moi je les ai identifiées, en tout cas en travaillant sur le lendemain de la Révolution française, à savoir... bloquer la représentation de l'égalité via la citoyenneté et bloquer la représentation de l'égalité via la création, ce que j'ai appelé la querelle des poètes et dont je parlais il y a 2 ans ici même dans la première rencontre d'HF, et Mel s'en souvient peut-être, et Blandine que je vois et d'autres qui sont là s'en souviennent peut-être. Donc c'est les deux enjeux forts, parce que c'est les deux enjeux du pouvoir symbolique, du pouvoir d'une part et du pouvoir symbolique où la masculinité est à son plus haut niveau de représentation du pouvoir, et de la jouissance, c'est là que ça se joue. Donc c'est tout. Et donc moi je trouve, c'est pour ça que je suis tellement d'abord heureuse d'être là, et puis impliquée dans le rapport que j'ai à mes amis de HF, c'est pour cette raison-là, c'est qu'après le lieu du politique, le lieu de la création... Alors bien sûr on est passé par les débats sur la parité domestique qui me tient à cœur, sur la parité, sur l'égalité professionnelle. On a cité dans le bref extrait sonore qu'on a eu tout à l'heure, on a eu le renouvellement de la directive de 2002, qui est en fait la reprise de la directive de 1976, qui a donc été revue en 2002. Et je vous signale d'ailleurs au passage que la loi sur le harcèlement sexuel qui se discute ces jours-ci en ce moment est tirée de ce renouvellement de la directive de 2002, dont je me souviens pour... à l'époque, avoir été parlementaire européenne précisément dans cette discussion-là. Donc tout ça se tient, bien sûr. Donc on a bien la discussion sur l'égalité dans tous les espaces de la société, mais néanmoins, en termes de pouvoir symbolique, la question de la citoyenneté, du pouvoir politique et la question du pouvoir de la création sont main dans la main pour les enjeux me semble-t-il. Voilà.
Éric Fassin et Anne Bisson.
Juste dans le prolongement de ce que vient de dire Geneviève Fraisse, j'ajouterais qu'il me semble qu'un mot qui joue un rôle important dans la culture, c'est le mot d'exception, c'est-à-dire revendiquer que ce n'est pas pareil que le reste. Et c'est un argument...
D'où mon interrogation.
Voilà. Mais c'est revendiquer en général pour dire qu'on n'est pas assujetti aux mêmes règles que les autres univers sociaux. Alors ça peut jouer par rapport au marché, mais ça peut jouer aussi par rapport à l'idée que si on commence à dire « et la démocratie, et l'égalité homme-femme », on peut s'entendre répondre « oui, mais quand même, pour nous, ce qui compte, c'est le talent », par exemple. Alors ce qui est très frappant, c'est que ce qui est vécu sur le mode de l'exception est assez banal. C'est-à-dire que dans tous les univers de la représentation et dans tous les univers de pouvoir, on revendique d'être exceptionnel. C'est le cas dans le monde universitaire. Dans le monde universitaire, on va dire, il n'est pas question d'introduire des critères tels que ceux de l'égalité homme-femme, puisque chez nous, ce qui compte, c'est la compétence. Dans le monde politique, on a dit, il n'est pas question d'introduire ces critères parce que, etc., etc. Donc, dans chacun de ces univers qui ont à voir avec la représentation dans tous les sens du terme, c'est-à-dire avec le pouvoir symbolique, eh bien, on revendique d'être une exception. Donc, il me semble qu'il est important de s'interroger sur ce terme d'exception et pour le retourner, c'est-à-dire, effectivement, il y a du pouvoir symbolique. Et donc, parce qu'il y a du pouvoir symbolique, il y a une responsabilité symbolique toute particulière. Donc, au lieu de dire « c'est un univers comme les autres », il me semble qu'il serait possible de dire « effectivement, ce sont des univers exceptionnels parce qu'ils sont chargés de pouvoir symbolique et donc ils ont des responsabilités, ces univers, à la hauteur de leur pouvoir. »
Anne Bisson et Jean-François Perrier.
Oui, je crois que la question aussi de la transmission et de l'histoire est importante. Il y a ce qu'on appelle un effet gomme sur les parcours des femmes. Dans notre région, voilà, je pense à une femme qui a été directrice pendant 12 ans d'une institution, eh bien, on n'en parle plus, on a effacé ce qu'elle a fait. Et voilà, et donc on va recommencer, on peut faire ça à l'infini. Et donc, perpétuer cette idée que les femmes seraient frappées d'impuissance créatrice, ça, c'est vraiment c'est ancré encore dans la société. Et pardon de dire, mais il n'y a pas de bonne foi du côté de nos homologues masculins. Il n'y a pas de bonne foi parce qu'ils voient bien dans l'arrivée des femmes et dans leurs revendications une perte pour eux. Il y a quelque chose. Ça aussi, c'est un tabou qu'il faut briser. À moins d'effectivement doubler le nombre de scènes nationales et de centres dramatiques, messieurs, vous allez perdre. Oui, vous allez perdre. Mais vous allez gagner en tant qu'homme digne aussi du partage qui est un fondement de la société démocratique. J'avoue que des fois, la moutarde me monte au nez et je me dis, mais comment tel ou tel homme de théâtre, respectable, respecté, écouté, qui s'interroge sur telle discrimination, sur telle question philosophique, mais comment il n'a pas encore vu qu'il fait partie d'un pouvoir dominateur qui ne partage pas? Comment ne l'a-t-il pas encore vu? Comment n'a-t-il pas encore mené une réflexion là-dessus? Alors c'est sûr qu'il ne va pas le faire parce que peut-être, justement, il y a la crainte de la perte et on voit bien, nous, dans nos pratiques, à quel point les portes sont fermées, le dialogue est fermé. Si on n'est pas dans un rapport de séduction, tu dégages. Si on n'est pas dans un rapport, si on n'accepte pas le paternalisme, tu dégages, etc., etc. Et ça, c'est le quotidien. Hein. Donc, des fois, on est très énervé. Mais c'est sûr que rien ne se passera sans nous.
Oui, juste, je pense en effet que tout ce qu'on est en train de dire ici, on s'aperçoit que cette question qui est posée au monde de la culture touche, vous le disiez tout à l'heure, à tous les domaines. C'est aussi cette sensation, parce que moi je l'ai ressenti en parlant avec des jeunes comédiennes ou avec des comédiennes ou des jeunes femmes metteurs en scène qui venaient me voir justement parce qu'elles savent que je suis à la Drag Queen de France comme expert. Et il y avait parfois, je sentais vraiment ce sentiment d'illégitimité. C'était très étrange. Alors je pense que je le sentais davantage parce que j'avais eu ces conversations avec certaines d'entre vous, et je me disais, et elles me disaient, est-ce que vous pensez que je peux présenter un dossier? Alors, tu te dis, c'est peut-être l'artiste qui a un doute. Puis au bout d'un moment, on se dit, c'est quand même bizarre que ce soit toujours les femmes qui vous posent cette question. Les hommes, ils disent, je présente un dossier. Alors au bout d'un moment, vous vous inquiétez. Voilà, ce que je voulais dire aussi, c'est que, en ce qui concerne le théâtre français et le théâtre public, puisque c'est de ça dont nous parlons, à part les théâtres nationaux où l'État a une action directe, puisque pour certains, enfin je pense beaucoup de gens parmi vous le savent, les théâtres nationaux, les directeurs sont nommés par le président de la République sur proposition du ministre de la Culture. Donc là, il y a une possibilité directe d'action de l'État s'il veut. Par contre, dans les centres dramatiques, le jury... Alors, vous me coupez, puisque vous êtes au ministère, moi, je n'y suis pas. Il y a les collectivités territoriales qui subventionnent les théâtres. Et, pareil, à cause de mes camarades de HF, je me suis souvenu avoir entendu, comme ça, une fois ou deux, des jeunes femmes, metteurs en scène, qui se présentaient et qui me disaient « C'était un peu curieux, parce qu'en face de nous, il n'y avait que des hommes. » Dans les jurys, il n'y avait que des hommes. En particulier...
Enfin, le syndéat qui est en train de modifier tout ça, et il va y avoir des Je crois que vous devez savoir ça mieux que moi, Nicole Pau, mais il va y avoir des modifications importantes à apporter à toutes ces structures et toutes ces échelles de structures, justement.
Oui.
Dans les jurys, il va y avoir une arrivée des femmes. Et j'ai pas les chiffres en tête, mais en 2018, là, ça sera à 50-50.
Le syndicat peut, au niveau des activités territoriales, 2018.
Pour le 50-50, serez... ça sera 2018.
Oui, et les TGV. Non, c'est simplement, la question que je me pose, c'est comment le syndicat peut demander aux collectivités territoriales d'avoir des femmes, parce que là, c'est vraiment les collectivités territoriales, c'est eux qui, en gros, décident quand même. En général, ce sont les adjoints à la culture et tout ça qui sont très, très massivement des hommes, en tous les cas, dans les endroits que je connais, moi. Donc, c'est vrai qu'on est aussi à cet endroit-là. C'est-à-dire que, comme il y a en effet un théâtre public en France, que ce théâtre public est inscrit à l'intérieur des institutions, de toutes ces institutions, on se retrouve confronté. Le mur n'est pas seulement à l'intérieur du ministère de la Culture. C'est ça, pour moi, en tous les cas, pour les centres dramatiques, c'est vraiment un des problèmes qui se pose aussi.
Alors, Nicole Pau, mais Géraldine, et après on va peut-être donner la parole au public. Vous avez peut-être des questions pour la demi-heure qui reste. Donc...
Non, mais c'est évident que le mur, il n'est pas simple. D'abord, on parle du théâtre ici, c'est normal, on est à Avignon, mais je pense que, comme vous l'avez dit d'ailleurs très justement, la question n'est pas posée simplement pour le spectacle vivant, elle est posée, je crois que je l'ai dit d'entrée de jeu, sur l'ensemble des champs culturels. Bon, et la question qui est posée, c'est effectivement celle de la relation entre pouvoir et création. Pourquoi, dans le domaine artistique au sens large, j'inclus vraiment tous les secteurs, et de la communication d'ailleurs, le pouvoir est-il effectivement, on va dire globalement, l'apanage des hommes. Bon, alors que dans d'autres domaines, je crois que quelqu'un l'a évoqué tout à l'heure, le ministère de la Défense est curieusement beaucoup plus en avance que le ministère de la Culture sur ces questions. C'est assez étonnant, mais bon, c'est des militaires, donc il y a une règle, ils obéissent, on leur a dit il faut qu'il y ait des femmes nommées, alors ils nomment des femmes, alors qu'à la culture, bon, c'est plus, on est libre, voilà. Donc ça, c'est quand même un constat qui est assez amusant. Donc c'est l'ensemble des secteurs. Je ne pense pas qu'il y ait à ce point une spécificité des arts du spectacle et du théâtre. Bon. Après, les modalités d'action du ministère, donc le ministère ne peut pas tout, bien évidemment. C'est un énorme problème de société. Et comme j'ai dit tout à l'heure, il faut absolument déclencher une mobilisation, j'ai envie de dire générale, pour reprendre un terme militaire, que je vais oublier aussi vite parce que c'est quand même pas le sujet. Donc cette mobilisation des esprits, elle passe alors par effectivement des exemples. Le ministère de la Culture, dans la mesure où il est en prise directe sur certaines nominations, doit effectivement donner l'exemple. Et je pense que la ministre de la Culture est extrêmement sensibilisée à cette question. Mais pour ce qui est de toutes les nominations qui dépendent des collectivités locales, le ministère dans ce domaine comme dans d'autres, quel est le rôle de l'État? Ben, on parle beaucoup d'État exemplaire en ce moment, donc premièrement, il faudrait que l'État soit lui-même exemplaire, ce qui n'est quand même pas tout à fait le cas dans ce domaine, c'est sûr, mais deuxièmement, il a aussi un pouvoir de mobilisation et de conviction. Donc les collectivités locales, le ministère de la Culture a énormément de relations avec elles, puisque la culture est aujourd'hui extrêmement décentralisée, et je pense que dans le cadre du Conseil des collectivités CCDDC du Conseil des collectivités locales pour le développement culturel, le ministère pourrait mettre à l'ordre du jour d'une réunion qu'il a à intervalles réguliers avec ce Conseil la question des nominations dans l'ensemble des institutions culturelles. Je pense qu'il peut tout à fait le faire et je pense que Aurélie Filippetti acceptera sans aucun doute de mettre ce point à l'ordre du jour. C'est une série d'actions, mais qui vient de partout et qui ne vient pas, même si le ministère de la Culture a un rôle éminent à jouer, je crois qu'il faut vraiment mobiliser l'ensemble des collectivités.
Géraldine, je voulais juste revenir sur la question que vous posez sur le théâtre public, mais en fait, essentiellement, il est subventionné en France. C'est-à-dire que c'est aussi la clé. C'est-à-dire que la question, c'est la question de la répartition des financements de la création. Il est essentiellement dans les mains de l'État, mais aussi des collectivités. Et que ce qui est scandaleux, c'est comment à un moment l'argent public, la redistribution de l'argent public, accentue la discrimination plutôt que de la rétablir. Donc c'est vrai que la question de comment à un moment les moyens de création peuvent être distribués autrement, donc comment c'est inscrit dans les chartes, comment des lieux à qui on confie de redistribuer les moyens de la création en France, donc des directeurs ou directrices, ont la responsabilité de cette attention. C'est le nerf de la guerre. C'est vrai que Myriam le disait tout à l'heure, Eric aussi, lorsqu'en moyenne un spectacle d'une femme c'est 40 000 euros dans un centre dramatique et qu'un spectacle créé par un homme c'est 70 000 euros, ça veut dire que les femmes créent toujours avec deux fois moins.
Donc à un moment, on peut bien parler de talent ou je ne sais quoi, mais quand même, l'argent, c'est du temps de travail. Et que ça, c'est très concret, c'est aussi un levier vraiment réel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la région Rhône-Alpes, lorsqu'elle décide qu'elle va répartir les subventions autant vers des, et à même proportion autant vers des projets portés par des hommes que par des femmes, prend une mesure très concrète qui va avoir des effets très concrets aussi. Et c'est vrai que, je pense que c'est important de revenir sur cette notion-là. En art, enfin, la question, on fait avec de l'argent et des moyens, et qu'on peut agir là-dessus.
Alors, est-ce que certains d'entre vous, certaines, auraient envie de poser des questions ou de dire quelque chose? Il y a quelqu'un pour les micros ou... Oui, alors voilà, apparemment, il y a un monsieur ici, devant, avec une chemise verte.
Je vous remercie de cette belle présentation. Là, il est vrai qu'on admire la qualité de vos interventions, qui sont, parce que vous êtes dans le boulot, on sent bien que vous avez aussi des positions très intéressantes. Moi, je vois le problème de la culture essentiellement comme un problème de démantèlement dont fait partie les services publics. Les services publics sont malheureusement très très mal menés en Europe, en particulier en France, mais en France entre autres. Hein, on voit une diminution des postes dans tous les domaines, dont la culture, évidemment, les grandes salles, les groupes théâtraux qui pourraient se former dans des cadres de villes, elles se font pas, ainsi de suite. Et moi, je pense qu'il y a tout à faire pour que il y ait une incitation des pouvoirs publics à donner de l'argent. Et vous parliez de Hollande tout à l'heure. Je crois qu'il le fera pas plus. On est dans une social-démocratie européenne. On n'en a rien à foutre. C'est un marché. Et puis le reste, ma foi, c'est secondaire. Il est vrai que la culture n'a pas besoin totalement du marché, mais elle en a peu besoin. Vous l'avez souligné à de nombreuses reprises. Et je crois que dans cet état de fait, on aura bien du mal à survivre et à faire quelque chose. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Mais enfin, il y a fort à faire encore pour l'égalité des femmes. Et puis, effectivement, il n'y a pas à se poser le problème que les femmes sont infériorisées à ce niveau-là. C'est elles qui mènent la culture. Hein, dans tous les groupes d'amateurs, partout, on voit les femmes apparaître. Hein, il y a même pratiquement souvent pas de rôle d'homme parce que à défaut d'hommes, etc. Et je crois que de ce côté-là... Il y a un matriarcat qui est pour moi toujours sous l'âge latent et qui marche bien, quoi. Et voilà.
Éric Fassin voulait répondre et puis après on va repasser la parole à la salle.
Juste en une phrase, il me semble que si le marché était seulement régi par des logiques économiques, rationnelles, eh bien il ne favoriserait pas les hommes au détriment des femmes.
Madame, bon, d'abord, je voudrais remercier HF. Je représente ici avec Denis Chalem, je suis Sophie Deschamps, je représente la SACD. Donc, si nous nous sommes emparés du sujet, c'est devant cette injustice flagrante. Monsieur, vous parlez du théâtre amateur. Excusez-moi, nous parlons du théâtre professionnel. Ici, on parle de l'argent public. L'argent public est généré par le travail des hommes et des femmes et ne retourne qu'aux hommes. Et donc, vous avez raison, il faut quitter cette féodalité, il faut qu'on descende du donjon, il faut qu'on arrête de dire « Anne, ma sœur Anne, ne vois-tu rien venir ?» On veut voir venir. Et c'est la raison pour laquelle... Parce que Laurence Equilbé me disait quelque chose. Quand vous parliez des auditions des conservatoires nationaux et internationaux pour entrer dans les grands orchestres nationaux français, on met des paravents, et les filles, si elles viennent en escarpins, elles ne sont jamais prises. On leur dit, venez en godillot, s'ils entendent un bruit d'escarpin, vous ne serez pas prise. Donc on est encore très très loin du compte. On voit bien que les femmes sont barrées des carrières, barrées de l'emploi, que ce soit les artistes associés, les artistes en résidence, les gens qui vont pouvoir travailler des années, progresser, monter plusieurs spectacles, ça n'est jamais, jamais les femmes. Les femmes ne peuvent donc pas faire de carrière. Moi, personnellement, je ne veux pas laisser ce monde-là à ma fille, ni à la vôtre. Donc, effectivement, il faut des quotas. Il faut des quotas, comme nous en avons réclamé à un moment donné, quand il y a eu la création des chaînes privées. Nous avons réclamé des quotas forts de création. Sinon, je vous assure qu'aujourd'hui, il n'y aurait plus un film français, ni un téléfilm français. C'est parce qu'il y a des obligations qu'il y a de la production française. C'est parce qu'il y aura des obligations... qu'il y aura des femmes à la tête des établissements à 50-50 et pas en 2018, et qu'il y aura des femmes qui auront des chances de faire de carrière. Et je pense qu'il faut militer pour les quotas, militer pour que ça se fasse vite,
quitte à virer des hommes, même si on met des femmes incompétentes, c'est pas grave. Il faut exiger la parité et le changement, c'est maintenant.
Voilà. Ouais, qui est clair. Une réaction ? Geneviève ?
Non, mais pour, j'ai une petite phrase que je sers pour faire vite quand il y a des discussions sur... Ah ben bon, il n'y a pas d'égalité sans contrainte, ça c'est une phrase que j'utilise, mais j'ai une image par ailleurs encore plus rapide que il n'y a pas d'égalité sans contrainte, qui est une phrase quand même abstraite, c'est l'égalité, ça ne pousse pas comme l'herbe verte. Parce qu'il y en a qui croient que pour ce qui est de l'égalité femme-homme, parce qu'il faut dire femme-homme et non pas homme-femme malgré HF, parce que j'apprends, moi je m'entraîne, parce qu'on a, on a dit longtemps égalité homme-femme, mais l'ordre alphabétique, normalement, oui, devrait nous faire dire égalité femme-homme, parce que F, oui, c'est avant H. Donc ça, c'est petite discussion qu'on peut avoir, mais moi je m'entraîne, malgré mes longues années de pratique de recherche sur le sujet, c'est seulement récemment que je m'entraîne à dire femme-homme. Mais l'égalité ne pousse pas comme l'herbe verte, ça veut dire que dès qu'on est, vous avez raison de prendre un autre exemple qui est celui des chaînes privées, mais dès qu'on est sur la question du sujet égalité des sexes, curieusement, il y a tout d'un coup un certain vide et vague qui s'installe. Et vous avez eu un mot étonnant au tout début que je voulais reprendre et discuter, mais comme vous avez dit autre chose après, je ne l'ai pas discuté, c'est que vous avez dit dans votre première intervention, malheureusement, il va falloir. Et ce mot malheureusement aurait pu être commenté, parce qu'il n'y a pas... La question, c'est que dès qu'on est sur ce sujet de l'égalité des sexes, on se sent un peu mal à l'aise, comme si quelque chose de naturel devait arriver. Mais il n'y a rien de naturel. Quand on a envoyé les enfants à l'école il y a 120 ans, on a forcé les enfants à aller à l'école obligatoire. Moi, c'est l'exemple que je prends. Ce n'est pas celui des chaînes privées, c'est celui de l'école obligatoire. Voilà. Donc, l'égalité ne pousse pas comme l'herbe verte. Jamais, depuis 25 siècles, l'égalité ne pousse pas comme l'herbe verte. Enfin, il y a eu quelques intermittences dans l'histoire des 25 siècles. Non, mais c'est, je veux dire, c'est sur le malheureusement...
Sur le malheureusement, c'était...
Vous allez répondre,
oui,
Nicole.
Voilà, mais c'était pas une... C'est, excusez-moi, c'est juste parce que c'est vrai qu'on est dans cette difficulté de se représenter l'égalité des sexes comme devant être une contrainte.
C'est pas une contrainte. Oui, excusez-moi, le malheureusement était apparemment un mot malheureux, mais néanmoins, je le retire pas, parce que ça voulait simplement dire qu'effectivement, on était dans un monde où il n'y avait pas d'égalité, donc il fallait prendre des actions un peu tout à fait volontaristes pour que cette égalité se mette en place. Voilà, se mette en place. Donc si effectivement nous étions dans une société égalitaire, il n'y aurait pas besoin de quotas, il n'y aurait pas besoin de tout ça. Voilà. Mais comme nous n'y sommes pas, effectivement, il faut des mesures un peu coercitives, contraignantes, via différents moyens.
Mais,
oui, je voulais dire, effectivement, selon les, par rapport aux mesures coercitives et contraignantes, qu'il faut arrêter, il faut arrêter l'hypocrisie, c'est-à-dire que toute programmation est déjà contrainte. Il y a des équilibres à faire dans les programmations, dans n'importe quel festival, dans n'importe quelle programmation théâtrale. Il faut des jeunes, des émergents, des classiques, des modernes, des choses pour les enfants. C'est un équilibre. On travaille sur des équilibres en permanence. Les programmatrices et les programmateurs ont l'habitude de ça, de toute façon. Les étrangers, les Français, pas les Français, etc., les internationaux, c'est un travail, ce travail existe. Donc quand on parle de gestes artistiques pour une programmation, je ne suis pas d'accord. Il y a certes une sensibilité, il y a des lignes, il y a du sens, mais les équilibres sont tout le temps une contrainte déjà donnée à des gens qui ont totalement l'habitude de faire ça. L'autre chose que je peux dire, c'est que Jean-François, par exemple, si je t'ai invité, c'est aussi que je sais que tu les connais, les metteuses en scène. Tu vas les voir. Tu es quelqu'un qui va au théâtre en faisant attention à être curieux, à rester curieux. C'est un travail. Voilà. Et nous demandons que ce travail soit fait, en fait, de connaissance, de curiosité et de réflexion, de prendre le temps de savoir qui sont les artistes et qui sont les créatrices.
Oui, c'est ça, c'est ce que je disais tout à l'heure, sur obliger les gens à la curiosité. Je veux dire, vous ne m'avez pas obligé, mais tu n'as pas pris une mitraillette en me disant, tiens, il faut aller voir les femmes tout de suite. Et non, simplement, tu m'as dit, tiens, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, et c'est un chemin qui se fait. Ce que je voulais dire, je pense vraiment que Il y a quand même, parce que là vraiment hier j'ai eu les chiffres de la DRAC Île-de-France, vraiment sur ce qu'on disait tout à l'heure, sur l'argent qui est donné. On donne autant d'argent à une femme qui a une convention de 3 ans qu'à un homme qui a une convention de 3 ans. Il n'y a pas de différence à ce niveau-là. Dans les compagnies et sur les budgets, parce que là j'ai quand même, j'ai demandé...
Mais non, mais faut arrêter ce discours. Il y a deux femmes qui dirigent des CDN.
Non, les centres
chorégraphiques...
Justement, c'est ce que je viens de vous dire, madame. Non, ce que je viens de vous dire, c'est que je pense qu'il y a un niveau où tout d'un coup les choses s'arrêtent. C'est ça ma question. C'est pourquoi dans les compagnies, il y a un... Vraiment, je le vois, parce que moi, ça fait, je crois, près de 10 ans que je suis comité d'experts de la DRAC. Il y a vraiment de plus en plus de projets présentés par des femmes. Il y en a de plus en plus, j'ai les chiffres, vraiment. Et il y a des aides qui sont données. Le problème, c'est que le passage de ce qui en France se fait, c'est-à-dire le passage de la compagnie à une responsabilité de centre dramatique, là, tout d'un coup, il y a quelque chose qui bloque. C'est là où est ma question. Et je rejoins ce que vous disiez, c'est ce que disait Geneviève. C'est vrai, c'est certain, c'est évident, parce qu'une compagnie, ce n'est pas un pouvoir, entre guillemets, directeur d'un centre dramatique, en effet, peut apparaître comme un pouvoir. Donc, et au niveau de la création, pareil. Alors, c'est vrai que les quotas, faut faire très attention. Si c'est pour mettre des femmes dans des petites salles de 100 spectateurs, écoutez, j'en ai 4. C'est une chose qui, à mon avis, est assez complexe et sur laquelle il faut que tout le monde participe à la réflexion sur ça. C'est-à-dire, comment ne pas se tromper pour ne pas avoir une mesure qui, tout d'un coup, entre guillemets, se retourne comme un gant.
Mais c'est pour ça qu'on demande des études au ministère de la Culture annuelles,
absolument.
Chose qui ne soit des études qui ne soient pas tous les 4 ans avec des études privées. On a besoin, comme il y a au Centre national de la cinématographie, on veut qu'au théâtre, il y ait des études de suivi et ces études de suivi soient aussi sur les subventions hommes-femmes, sur les salaires hommes-femmes, sur l'emploi hommes-femmes et les nominations hommes-femmes. Et ces études-là devraient être obligatoires puisque nous sommes dans de l'argent public.
Est-ce qu'il y a d'autres désirs de prendre la parole? Alors, monsieur...
Moi, j'ai le micro, pardon.
Vous avez le micro, donc c'est vous qui prenez la parole.
Non, en fait,
celui qui a le micro a le pouvoir.
Je voulais parler des mesures coercitives. Moi, il y a une mesure coercitive, entre guillemets, qui me semble intéressante, c'est l'anonymat des candidatures. Parce que, comme on le disait tout à l'heure, c'est depuis les auditions derrière paravent que les femmes ont pu intégrer les orchestres. Moi, ça fait un moment que je réclame au CNT, que le mouvement HF réclame l'anonymat des candidatures à l'aide à la création au CNT. Pour l'instant, il y a de grosses réticences et on sait très bien que l'anonymat favorise toujours les femmes. Parce que dans notre société, dans le monde entier, sous toutes les cultures, les latitudes, les religions, etc., une femme vaut toujours moins qu'un homme. Donc il faut absolument mettre en place l'anonymat des candidatures dès que c'est possible. Et concernant les auteurs, on parlait tout à l'heure du terme « autrice ». Je voulais quand même signaler que c'est un terme qui est né en même temps que le terme « actrice » et qui a été évincé par l'Académie parce que les femmes n'écrivent pas. Donc le terme « autrice » existait, et moi j'encourage tout le monde à l'utiliser. Et un dernier tout petit mot pour faire un peu d'humour, le mouvement HF s'est appelé HF, homme-femme. Bon, maintenant on se dit que si c'était appelé FH, ça faisait un peu François Hollande, donc on ne regrette rien.
Monsieur voulait prendre la parole là-bas, juste là à droite, ici. Là-bas et derrière, en fait. On fera l'un derrière l'autre.
Bon, je m'immisce. Faisant partie aussi du mouvement HF, j'ai envie d'ajouter 2 points sur l'intérêt de ce combat-là et de cette montée au créneau par rapport à l'institution telle qu'elle fonctionne. C'est-à-dire que cette histoire renvoie la machine institutionnelle sur au moins 2 points, sur un déficit total, disons, de la manière dont on devrait s'attendre à ce qu'elle fonctionne. Parce qu'il s'agit d'argent public, parce qu'il s'agit de fonctions publiques, etc., etc. La question des lieux de formation, par exemple. Il faut savoir qu'en France, on est quasiment le seul pays avec un outil de travail en matière de culture et de création aussi important, aussi subventionné, mais où n'existe quasiment pas d'école de formation. Elle n'existe que pour les comédiens, et en ce qui concerne la mise en scène et l'écriture dramatique... Elles sont extrêmement récentes. Je regrette peut-être, je ne sais pas si Thierry Pariente est toujours dans le public. Mais comme il dirige l'ENSAT, ça aurait été peut-être intéressant d'entendre son point de vue, puisque justement il a intégré au cursus de formation récemment une filière écriture et en train de se monter une filière mise en scène. Je dis ça pourquoi ? Parce qu'il se trouve qu'aujourd'hui dans l'institution, qui a le pouvoir ? Bizarrement, ce n'est pas les comédiens, bien au contraire, alors que c'est ceux qui sont formés par l'argent public. Il s'agit des metteurs en scène, voilà, point. Et les metteurs en scène n'ont bénéficié d'aucune formation, c'est-à-dire que c'est un système total d'autodécrétation personnelle. On est metteur en scène parce qu'on a dit qu'on l'était. Et ça, évidemment, c'est un système qui avantage totalement les hommes. Voilà. Donc, si je sais pour avoir connu notamment des jeunes autrices faisant partie de la filière écriture à l'ENSAT, c'est extrêmement précieux pour elles. Il faut savoir que la dernière promotion, il n'y avait qu'un seul homme. Elles étaient 5-6 filles, au contraire. Et ça veut dire que tout d'un coup, on leur décerne une légitimité, c'est-à-dire que l'institution leur décerne un diplôme. Et à partir du moment où ces formations vont se généraliser, vont se présenter au sein de ce fameux vivier, des jeunes metteuses en scène, des jeunes autrices qui seront reconnues par l'institution, déjà, ce qui n'existe pas à l'heure actuelle. Donc ça, c'est extrêmement important. L'autre point où l'institution est quand même mise en flagrant délit de ne pas faire son boulot, je dirais, c'est au niveau des programmations qui sont concentrées entre les mains, notamment pour les CDN, de personnes qui sont déjà des artistes dans des cursus de création, etc. Et on sait que ces gens-là n'ont pas le temps matériellement d'aller découvrir en dehors du petit enclos de leur connaissance personnelle. Donc réclamer que des femmes aient accès aux moyens de production et aux scènes françaises veut dire, c'est sortir toute cette population-là de son petit ronron qui fait qu'une programmation d'un CDN se monte. Comment, concrètement ? Eh bien, tout simplement, moi je me souviens, c'était à Béthune, toute la tribune pour la présentation de saison, c'était les coproductions du spectacle Maison, qui était la création des directeurs de l'époque. Voilà. Donc tout ça se fait à l'intérieur d'un monde. Donc sortir de ce monde va être un effort peut-être pénible pour tous ces gens-là, mais il faut absolument briser cet état de choses. Et dernière question, comme geste symbolique fort, parmi les propositions de HF, je m'adresse à vous, Nicole Pau, pourquoi ne pas faire entrer une femme au Panthéon ?
Ah bah ça, c'est une question directe, hein.
Pourquoi pas ?
Pour ma part,
réaction, monsieur.
Pour ma part, je voudrais revenir sur un propos qui m'a paru choquant. Je ne pense pas qu'il faudrait arrêter la métaphysique. Je pense qu'il faut faire de la métaphysique, la continuer par de la philosophie et la prolonger par de la politique et de la politique concrète. Bref, je crois qu'il est très très important de réfléchir sur ces questions en termes généraux et généreux. On parlait de généraux, je ne sache pas que, malgré les avancées extraordinaires de la Défense, il y ait tant de généraux féminins au ministère de la Défense. Pour ce qui est du reste, je crois que il y a deux contradictions qui me paraissent particulièrement intéressantes et qui ont été évoquées. La première, c'est la présence massive de candidates et en même temps de retenues dans les sections de théâtre, candidates féminines donc, et d'autre part, la présence massive, et si j'ai bien compris dans un débat qui avait lieu ici il y a quelques jours, massive et en progression constante, des femmes dans la fréquentation du Festival d'Avignon, pas seulement off, mais le Festival in. Et donc, de ce point de vue, évidemment, on ne peut pas expliquer, à mon avis, autrement cet écart entre la présence massive dans la fréquentation et dans la pratique, et d'autre part, la présence très faible au niveau des pouvoirs de décision et de création, sans penser à l'intériorisation considérable de la domination masculine sur les enfants, sur les jeunes filles et sur les femmes. Et donc, l'extrême puissance extériorisée de la domination masculine, même si elle n'apparaît pas vraiment. C'est Bertol, qu'on pourrait appeler Bertie, ça le féminiserait, qui disait « ne dites jamais, c'est naturel ». Donc, de ce point de vue, je crois que c'est ce que j'appelais, moi, par hasard et par ailleurs, la paradoxe de la comédienne. D'une certaine manière, elle devient comédienne, et en même temps qu'elle devient comédienne, dès son apprentissage de comédienne dans les troupes amateurs et dans les sections théâtrales, j'en parle d'expérience douloureuse, elle se nie en tant que femme, elle accepte absolument de faire tous les rôles, et ces rôles ne font pas rire, alors que lorsque leurs quelques collègues masculins de ces sections théâtrales ou des troupes amateurs font des rôles de femmes, évidemment, ils font, si je puis dire, diablement rire, tellement ils sont ridicules au sens étymologique.
Excusez-moi, je vais juste vous interrompre deux secondes pour répondre sur la métaphysique très très brièvement, puisque c'est moi qui avais dit ça. Non, c'est moi qui ai dit qu'il fallait arrêter de faire de la métaphysique. Bon, je l'ai dit comme une boutade, parce que moi, la métaphysique, elle m'a formée, et je pense que c'était pas la pire des écoles, bien au contraire. Ce que je veux dire par là, c'est que dans ces débats, j'ai pris le sens du mot métaphysique dans son sens, on va dire, trivial, hein, c'est-à-dire s'enliser dans des débats oiseux et profondément abstraits, qui ont été produits lorsqu'on a débattu de la question du PAC sur l'homoparentalité, sur la loi sur la parité, et que nous perdons du temps. C'était juste une manière de dire qu'il y a une situation de fait qui est une injustice, qui est une inégalité. Il faut arrêter de débattre ce que l'on peut continuer à faire dans des colloques universitaires, mais ne perdons pas de temps. Si effectivement on veut que la situation change avant dans 10 ans, on ne va pas colloquer pendant 10 ans et prendre des décisions. Ensuite, les décisions, c'est maintenant. C'était le seul sens de mon attaque contre la métaphysique. Voilà.
Alors, je vais
compléter parce que c'était effectivement à double tranchant. Là où je suis d'accord avec Myriam, mais je dirais autrement, j'avais une formule pour la parité qui était de dire que c'était vrai en pratique et faux en théorie. J'ai été contre les débats philosophiques à propos de la parité. Je trouve qu'ils étaient, c'était de faux débats. J'ai pas le temps de le développer ici. Je voudrais le dire. Et quand j'ai dit tout à l'heure que c'était un outil, c'est parce que je pense qu'il y a eu des faux débats philosophiques concernant la parité. Donc c'est une autre façon de dire la chose. Donc c'était des faux débats philosophiques. Mais par ailleurs, j'ai parlé moi aussi de la question de la métaphysique à propos de l'éternel féminin. Je pense que je porterai en faux ce que vous avez dit. Je pense que quand on reprend l'éternel féminin, il y a là une volonté de ne pas entendre ce qui s'est passé en philosophie depuis 2 siècles, qui met, et c'est là où je vous réponds, je me permets de dire qu'il n'y a pas d'arrêt, il y a une discordance qui est en défaveur d'une réflexion concernant la question des femmes qui bougent aussi, et on fait comme si ça ne bougeait pas, et vous dites il faut continuer comme si cette question-là était immobile, et moi je dis elle est aussi mobile que le reste de la philosophie, et je ne suis pas d'accord pour qu'on continue à parler d'éternel féminin au début du 21e siècle, comme si il ne s'était rien passé concernant ce sujet homme-femme par rapport à tout ce qui se passe dans la philosophie depuis 2 siècles. Donc il y avait bien un double débat concernant la question métaphysique qui se jouait, et les deux, entre guillemets, philosophes qui sont là à cette table, répondent de leurs deux façons. Ouais. C'est important, me semble-t-il, de ne pas laisser passer cette question de... Il n'y a pas d'arrêt, il y a juste un tempo de la philosophie qui se joue aussi sur la question des sexes.
Non, je faisais des signes à May qui veut prendre la parole.
Oui, je veux prendre la parole sur les répertoires vite, pour les jeunes, parce que c'est pas possible.
Rapide, parce que sinon personne ne pourra parler dans la
salle.
Voilà,
après je repars.
Pardon, je ne vais pas vous brimer, mais on va arrêter dans 10-15 minutes, donc essayez des prises de parole plus synthétiques.
Alors, je vais essayer de synthétiser sinon, sur les rôles des jeunes femmes qui seraient plus ou moins en train de se nier quand elles jouent des rôles d'hommes. Je voudrais vous dire que je coordonne les ateliers de la scène nationale de Malakoff. Je m'occupe énormément d'ateliers et je trouve qu'effectivement, c'est un endroit très important autour des répertoires. C'est-à-dire qu'il faut absolument proposer, parce qu'il y a plein d'entre nous qui donnons des ateliers, qui avons une responsabilité. Le théâtre n'est pas qu'un lieu de création, c'est un lieu où il y a énormément de jeunes qui viennent travailler, qui sont en lien avec les lycées. Il y a énormément d'abonnés qui sont des lycéens. Effectivement, c'est dans les cahiers des charges, justement. Quand les jeunes travaillent des textes, il faut qu'on fasse l'effort de leur proposer des rôles avec des textes. Ces textes existent. Par ailleurs, j'ai fait des expériences moi-même en tant qu'atelier, qu'artiste, je ne sais pas comment dire, qu'intervenante d'atelier, de faire, d'inverser les sexes, de dire tu prends le rôle de l'homme, elle prend le rôle de la femme. Ça n'est pas vrai que les hommes sont ridicules et que les femmes intègrent. Personne n'est ridicule quand on travaille sur ces questions et les jeunes s'en emparent d'une manière étonnante, très jolie, très grave. Et ils sont absolument, et j'ai beaucoup de témoignages là-dessus, ils sont absolument intéressés parce que ce sont des jeunes qui ont raison, ils sont modernes, ils sont dans une société moderne. Et quand on demande à une jeune fille de jouer la jeune première privée de l'autorisation du papa, parfois elle est plus mal à l'aise que simplement prendre la parole en tant que femme du monde et dans le monde, parlant dans le monde.
Merci. Alors, il y avait une dame là et après la dame là-bas. Non, non, attendez, juste on passe par là et après on vient vers vous.
Oui, bonjour. Je suis violoniste à l'Orchestre de Chambre de Paris et responsable nationale pour les musiciens Force ouvrière. Voilà, et je voulais faire une petite réflexion sur les syndicats et la féminisation dans les syndicats. En fait, voilà, les syndicats négocient dans les entreprises, ils négocient au niveau de la branche, ils sont reçus par le ministère, ils discutent avec les ministères, les collectivités territoriales, et il n'y a quasiment que des hommes dans les syndicats. Nous avons quelques réflexions entre filles dans les syndicats, mais c'est très très loin d'avancer. Voilà.
Merci. Donc madame, juste là, le micro va arriver jusqu'à vous. Ici. Je peux me partir. C'est chaud, hein. Et derrière, on va prendre deux, trois prises de parole, mais c'est tout.
Voilà, je voulais dire en effet que c'est absolument urgent de prendre toutes les mesures que Mme Nicole Pau a proposées, d'autant que, comme le disait monsieur, on est en situation de crise, crise générale, mais crise de la culture, et que comme les femmes sont au bas de l'échelle actuellement, c'est elles qui sont exclues les premiers. Le collectif Poitou-Charentes s'est mis en lien avec Pôle emploi. Il faut savoir que 80% des intermittents exclus du système depuis la réforme sont des intermittents teux. Voilà, on travaille avec peu de moyens, on travaille avec quasiment plus rien, donc on est exclus du système. La deuxième chose que je voulais dire, c'est qu'on a mis, on s'est mis d'accord sur un manifeste qu'on a coécrit avec les différents HF. Il est prêt, il est disponible ici, il est en signe sur toutes nos listes. Prenez notre acte, vous pouvez même le signer en vrai dans un beau cahier, histoire d'être avec tout le monde sur le beau cahier tous ensemble. Voilà, le concret existe encore avec le virtuel.
Merci. Est-ce que d'autres personnes veulent prendre la parole ? Oui ?
Bonjour. Je suis militante et lanceur d'alerte sur les normes et les certifications. Je voulais juste vous dire que la grande nébuleuse d'AFNOR a pondu une certification, un label égalité professionnelle homme-femme qu'ils vendent très cher. Et quand les brigades d'AFNOR débarquent dans une société, évidemment, ça n'est pas avec des vertus humanistes, c'est juste dans le but de nourrir AFNOR. Mais je suis quand même très inquiète par rapport à ça, car si nos lois sont détournées en produits commerciaux, on a vraiment l'intérêt de se bouger. Voilà.
D'autres personnes ? Non ? Oui ? Au fond, là-bas. Merci, jeune homme.
Voilà. Bonjour. Donc moi, je suis comédienne et metteur en scène au sein d'un collectif, le collectif Jacquard. Et c'était juste pour témoigner également de l'urgence. Et je pense que je suis toujours étonnée de la prudence qu'il y a quand on parle de ce sujet-là. Quand vous disiez, est-ce que ça ne va pas choquer ? Est-ce que ça ne va pas... Voilà, ou quand vous, voilà, je pense que on n'est pas choqué, inversement, de la violence qu'il y a en tant que femme quotidienne, qu'il y a, bon, j'en passe dans la rue et tout. Mais par exemple, pour donner un petit exemple, moi, en tant que comédienne, quand je sors d'un spectacle, je suis souvent très bien accueillie par les directeurs de salle, un peu comme une icône d'une jeune femme brillante sur le plateau. Enfin, brillante, je ne fais pas des fleurs, mais voilà. Mais en tant que metteur en scène, par contre, je vois pas du tout la même attitude des interlocuteurs. Ça m'est déjà arrivé d'aller dans des rendez-vous où on ne va pas me regarder alors que c'est moi qui suis porteuse de projet. Et voilà les attitudes. Et vous parliez tout à l'heure de réseau. Effectivement, dans le milieu culturel en particulier, c'est du réseau. Et donc, si on n'impose pas par la loi, par des réunions, par des viviers, comme vous disiez, qu'on n'y va pas au paquet maintenant à fond, je pense que ça ne va pas avancer puisque c'est un milieu de réseau et puisque c'est un milieu dominé par les hommes depuis longtemps. Donc, par raison, on ne peut nécessairement pas avoir les mêmes appuis, les mêmes contacts et les mêmes rencontres. Et je pense que le milieu de l'art est un milieu de résistance, de questionnement sur la société. Et c'est très, très choquant en France que cet endroit-là, ce milieu-là, soit si archaïque, si en arrière. Je suis allée un peu au Canada dans un festival de théâtre et enfin, c'est... Il faut réaliser à quel point c'est choquant. Et comme vous disiez tout à l'heure, Monsieur Fassin, c'est ça en fait. Il faut montrer que l'égalité homme-femme, c'est la modernité. Il faut rendre archaïque, rendre honteux la situation actuelle. Et il ne faut pas de prudence en fait. Je pense que la violence qu'on vit tous les jours en tant que femme artiste et même femme tout court, elle est très violente. Donc il faut y aller en face, sans concession, radicalement, rapidement, et voilà.
Voilà. Merci, merci. Est-ce que quelqu'un ici veut prononcer une phrase de conclusion? Quelques mots, mais peut-être, et puis on va se séparer.
Oui. Je pense que la conclusion de la demoiselle est très, très nette et très bien, et nous y adhérons, mais adhérer aussi à HF, par ailleurs. Je veux un petit peu cette... Et par ailleurs, donc, adhérer, soutenez le manifeste, signez-le, que nous fassions nombre, que nous fassions corps. Pour nous, c'est très important aussi que les spectateurs et les spectatrices s'emparent de la question, pas seulement les acteurs du milieu professionnel, mais aussi les spectatrices et les spectateurs. Nous avons besoin que cette question commence à sortir du champ simplement des victimisations, mais du champ de une société démocratique peut-elle laisser en son sein une aberration telle. Voilà, je vous remercie énormément tous et à toutes d'avoir participé à ce débat et je vous souhaite une très bonne suite de festival.